président de The Shift Project et deux des auteurs du rapport pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Monsieur Corentin Biardot-Noyer et Madame Laure Lequéré. La période est marquée par une forte actualité politique et parlementaire sur les questions agricoles. L'examen du projet de loi d'orientation agricole reprend enfin au Sénat et devrait se conclure avant le Salon de l'agriculture en fin février. Plusieurs propositions de loi sont aussi inscrites à l'ordre du jour au Sénat et à l'Assemblée. Et ces débats se déroulent alors que le Parlement s'est prononcé très largement pour soutenir la position du gouvernement sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Je souligne ce point car il s'agit de ne pas trahir nos engagements climatiques et agricoles ni de brader les efforts de nos agriculteurs. Nous sommes donc très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur vos recommandations. Elles sont issues d'un travail conséquent, appuyé sur les recherches de scientifiques et sur une grande consultation des agriculteurs. Il serait intéressant que vous nous disiez aussi ce que vous retenez de cette consultation. Je ne doute pas que les agriculteurs eux-mêmes partagent les inquiétudes liées au réchauffement climatique, notamment à son impact sur la ressource en eau. Vous avez élaboré plusieurs scénarios pour projeter à horizon 2050 le secteur agricole français qui est aujourd'hui, selon vous, à bout de souffle. Vous soulignez les injonctions contradictoires auxquelles le secteur est confronté et sa très grande vulnérabilité au changement climatique. Cette question rejoint tout spécialement les travaux de notre commission. Nous sommes donc particulièrement intéressés par les leviers qui vous semblent prioritaires pour garantir la résilience climatique du secteur agricole. À défaut, la viabilité économique des exploitations, le revenu des agriculteurs et la souveraineté alimentaire ne pourront pas non plus être assurés. Au-delà des objectifs généraux, quels sont concrètement, selon vous, les arbitrages les plus urgents, les leviers les plus efficaces, les conditions nécessaires à leur acceptabilité? Vous avez la parole pour un propos introductif avant les questions des orateurs de groupe.
Ah, c'est bon. Écoutez, merci beaucoup. Bonne année également, puisque c'est jusqu'au 31 janvier, il faut commencer par ça. Et merci de nous avoir réservé un temps pour discuter d'un sujet qui est un tout petit peu utile à l'activité de chacun d'entre nous, puisque si on ne mange pas, le reste devient un peu plus difficile. Je vais vous parler rapidement de ce qu'est le Shift Project en quelques minutes, et puis ensuite mes deux collègues sur ma droite rentreront un tout petit peu plus dans le détail du travail qu'on a mené. Le Shift Project est une association qui a été créée en 2010, dont je suis le président, et qui a pour objectif de contribuer à la décarbonation de l'économie. C'est une association d'entreprises, donc les seuls membres du Shift Project sont des entreprises. Leur cotisation représente à peu près un tiers de notre budget, et les deux autres tiers sont fournis par du financement ad hoc sur les projets que nous menons. L'essentiel de l'activité du Shift Project consiste à s'emparer de sujets, donc on est libre éditorialement de faire exactement ce qu'on veut, on est une association d'intérêt général et tout ce qu'on fait est versé dans le domaine public, et nous nous emparons de sujets dont nous pensons qu'ils sont utiles pour faire avancer le débat sur la décarbonation. On a une association cousine, qui ou sœur, je ne sais pas comment il faut dire, qui s'appelle les Shifters, qui elle est une association de personnes physiques, donc en gros il y a deux associations qui travaillent la main dans la main. Le Shift Project, qui est une association d'entreprise, et les Shifters, qui sont une association de personnes physiques. Au sein des Shifters, selon qu'on demande au syndicat ou à la police, on se promène entre 8 000 et 30 000 personnes. 30 000, c'est les gens qui disent qu'ils en font partie, et 8 000, c'est ceux qui payent leurs cotisations, voilà, si on segmente de cette manière. Les sujets sur lesquels on travaille, comme l'énergie est partout, ils sont partout également. Nous avons, de par le passé, travaillé sur l'industrie, les transports, l'éducation, la santé, la culture, l'administration publique. Enfin voilà, on travaille sur à peu près n'importe quel sujet. Et là, nous avons lancé, il y a maintenant à peu près 2 ans, un travail sur la question agricole, qui est celle dont on va vous parler ce matin. Alors le cadre dans lequel on inscrit notre réflexion est le suivant. On parle souvent, nous, de ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Alors la double contrainte carbone, elle est assez simple. c'est le fait que les combustibles fossiles, c'est absolument merveilleux, puisque si on regarde historiquement ce qu'ils nous ont amené, ils nous ont amené la fin de la pénibilité de plein de travaux, la liberté individuelle de mouvement, l'augmentation du pouvoir d'achat, les retraites. Oui, les retraites, c'est une conséquence de l'avènement des combustibles fossiles qui ont permis la productivité du travail, le développement de l'industrie, la mondialisation, enfin j'en passe et des meilleurs. Ils ont malheureusement deux inconvénients. Donc s'ils n'avaient pas ces inconvénients, ça serait très bien de les garder, il faudrait surtout les garder. Mais ils ont deux inconvénients. La première, c'est qu'ils sont épuisables, et le premier, c'est qu'ils sont épuisables, et le deuxième, c'est qu'ils engendrent du réchauffement climatique. Alors le deuxième inconvénient, vous le connaissez tous et toutes, parce que on en parle beaucoup. Le premier, je vais juste vous rappeler qu'il faut 40 à 400 millions d'années pour faire du pétrole, du gaz ou du charbon à partir de la vie ancienne qui lui a donné naissance. Donc c'est pas renouvelable. Donc ça veut dire qu'on peut pas en avoir indéfiniment autant qu'on veut. Et en fait, quand on regarde l'approvisionnement européen, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a des auditions devant certains de vos collègues de par le passé qui rentrent dans ce genre de détails. Quand vous regardez l'approvisionnement énergétique européen, vous constatez que nous sommes déjà sous stress, pas pour des raisons climatiques, pour des raisons géologiques, d'approvisionnement en combustibles fossiles depuis maintenant 15 ans. Et ça peut très facilement se relier aux problèmes économiques croissants que nous connaissons depuis cette époque. Voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais on peut en reparler si ça vous intéresse. Dans le cadre de l'agriculture, on a découpé nos travaux en deux temps. Un premier temps est de nous intéresser à la partie production. C'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et il y aura un deuxième temps que nous allons démarrer dans quelques mois où on va s'intéresser à la partie aval, c'est-à-dire transformation-distribution. Voilà. Évidemment, on pourrait nous dire qu'il y a, dans un cercle, hein, vous savez, il n'y a pas de début. Hein, donc voilà, il fallait bien démarrer par quelque chose. Ces deux sujets qui se répondent, bien évidemment. Et là, on a choisi de commencer par parler de la partie production, qui est celle dont on va vous parler ce matin. Et là-dessus, je passe la parole à mes collègues.
Bonjour à toutes et à tous. Alors dans le cadre de notre travail sur le périmètre de l'agriculture qu'a présenté Monsieur Jancovici, nous sommes partis de deux constats majeurs. Le premier, c'est la dépendance du secteur agricole aux énergies fossiles et sa vulnérabilité climatique qu'a évoquée Madame la Présidente. Si on analyse les transformations du système agricole sous l'angle énergétique, qui est vraiment le cadre des contraintes physiques qu'on traite au sein du Shift Project, vous avez ici un graphique qui vous montre les sources d'énergie injectées dans le système agricole par aplats de couleurs. Donc les aires bleues foncées et bleu clair représentent les énergies animales et humaines. Et les aires rouges et oranges, notamment, représentent respectivement les carburants et les fertilisants minéraux, donc l'azote minéral. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, il y a eu un phénomène assez rapide en agriculture qui s'est passé sur une vingtaine d'années au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de substitution de ces énergies animales et humaines, donc la traction animale notamment, par des énergies fossiles, donc encore une fois, carburants et engrais minéraux dont l'origine est le gaz fossile. Donc aujourd'hui, les engrais azotés issus de gaz fossiles, c'est 80% des apports directs d'azote sur les parcelles agricoles. On est également hautement dépendant d'importation pour ces engrais azotés, à hauteur de 75%. Et le pétrole, c'est à peu près trois quarts des consommations directes d'énergie sur les fermes. Donc on voit bien ici le niveau de dépendance agricole vis-à-vis des énergies fossiles. Sur l'échelle nationale, ça représente finalement assez peu, puisqu'on est sur 3% de la consommation nationale d'énergie. Donc ça, c'est pour la partie substitution des énergies. Ça a permis plusieurs choses, évidemment une révolution des techniques, mais également une perte d'autonomie énergétique des fermes, et aussi, à l'échelle nationale, une grande simplification et spécialisation des systèmes, avec notamment une dissociation des systèmes d'élevage et des systèmes de culture. Dans le même temps, le corollaire de ça a été une explosion de la productivité, mais qui aujourd'hui est marquée par une certaine stagnation. Donc c'est un enjeu pour lequel les agriculteurs sont pleinement conscients du sujet, puisque dans la grande consultation qui a été menée au sein de ce projet agriculture, donc pour laquelle on a la chance d'avoir eu un très grand nombre de répondants, on voit que 71% des agriculteurs sont préoccupés par leur dépendance aux énergies fossiles. Et on a un chiffre encore plus élevé d'agriculteurs inquiets pour la viabilité de leur ferme vis-à-vis du changement climatique, qui est vraiment le principal sujet qui remonte pour la viabilité des fermes. Donc un secteur qui est à la fois très dépendant et très vulnérable sur ces sujets énergie-climat. Et un deuxième constat qui porte sur les usages de la production agricole, donc la biomasse agricole. Contrairement peut-être à d'autres secteurs, c'est une production qui fait l'objet de beaucoup d'usages, de multiples usages, et qui nécessite aujourd'hui des arbitrages qui ne sont pas toujours définis. C'est un secteur qui donc bénéficie d'un phénomène qui s'appelle la photosynthèse, qui permet de capturer le CO2 de l'atmosphère et d'en produire des composés organiques grâce à l'apport de différents nutriments, dont l'azote. L'azote étant vraiment le principal facteur déterminant la productivité agricole. Et cet azote, il peut donc être apporté soit par des engrais, soit par la fixation symbiotique, qui est un phénomène qui est notamment lié aux cultures de légumineuses, qui permettent donc de substituer une partie des engrais minéraux par ce phénomène naturel. Donc, cette biomasse agricole, donc on est selon les années aux alentours de 245 millions de tonnes de matière sèche, c'est très évidemment variable puisque dépendant des conditions climatiques. Comme vous le voyez ici, elle a de multiples usages. Qui ne sont pas étanches, puisqu'il y a des connexions entre les filières. Donc, le retour au sol de la matière organique permet un maintien de la fertilité des sols, également un stockage de carbone dans les sols. On a également évidemment des usages pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale, des usages énergétiques avec les biogaz et les biocarburants notamment, des usages pour les biomatériaux et d'autres usages industriels dans le secteur de la bioéconomie. Et donc, deux enjeux sur cette biomasse. Comme je l'évoquais, c'est une ressource qui est annuelle au volume non garanti, étroitement dépendant des conditions de l'année, avec en plus une surface agricole qui est en contraction constante depuis un siècle, des rendements qui sont, on l'a vu en 2024 et 2021, qui sont hautement et de plus en plus irréguliers, et des besoins croissants de la part de ces différents secteurs économiques. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il y a en effet un besoin d'arbitrage et de compromis sur les usages de cette biomasse, en maintenant un certain niveau de retour au sol pour que les sols puissent rester eux-mêmes fertiles et donc productifs à terme. Donc, partant de ces constats, dans notre travail, on s'est intéressé à proposer des scénarios de transition de l'agriculture à horizon 2050. Aujourd'hui, les objectifs officiels qui sont assignés à l'agriculture, les objectifs quantitatifs, ce sont des objectifs d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre direct, au travers de la stratégie nationale bas carbone, et donc qui vise à passer d'environ 74 millions de tonnes de CO2 équivalent aujourd'hui à 48 millions de tonnes de CO2 équivalent à 2050. Le travail donc du projet agriculture a consisté à tester trois priorités stratégiques qu'on a largement entendues dans le débat public ces dernières années. Une première priorité qui vise à maximiser l'autonomie alimentaire et agricole de la France. Une deuxième priorité qui vise à faire de l'agriculture un secteur producteur et fournisseur de bioénergie pour lui-même et pour d'autres secteurs. Et une troisième priorité qui vise à maintenir des capacités d'export pour la France. Ce premier travail préliminaire, il a montré qu'aucun de ces trois scénarios n'était compatible avec cet objectif de 48 millions de tonnes. Quand on essaye de contraindre ces trois scénarios à cet objectif, on se rend compte qu'il y a des contreparties importantes, notamment en termes de vulnérabilités nouvelles, de dépendances nouvelles qui apparaissent, et en particulier de baisse d'autonomie alimentaire et énergétique. Donc, dans une deuxième phase de travail qu'on a menée ces six derniers mois, on s'est intéressé à construire un quatrième scénario, dit de conciliation, qui, lui, vise d'une part à réduire ses émissions de gaz à effet de serre direct, mais également et peut-être surtout à améliorer la résilience du secteur. Résilience agricole et alimentaire, c'est-à-dire maintenir les capacités productives pour en priorité nourrir la population. Un deuxième volet de la résilience qui est la résilience climatique, donc contribuer à faire que l'agriculture s'adapte de mieux en mieux au changement climatique. La résilience énergétique, donc limiter la dépendance aux énergies fossiles et potentiellement contribuer à être plus autonome au niveau énergétique national, et une résilience écosystémique, c'est-à-dire maintenir en bon état les facteurs de production que sont les sols, l'eau et la biodiversité. Donc on s'est vraiment fixé ces deux objectifs dans ce scénario de conciliation qui met en avant la nécessité de compromis et qui met en avant également cinq grandes familles de leviers que vous avez sur la droite, que nous avons souhaité mobiliser de manière systémique, puisque ces leviers sont vraiment en interaction les uns les autres. Un exemple très concret, en diminuant les effectifs d'élevage, on peut avoir moins de fumier, donc moins de fertilisants organiques disponibles, ce qui peut poser des problématiques pour la fertilisation de certaines cultures et notamment de certaines filières comme l'agriculture biologique. A contrario, l'évolution des pratiques de fertilisation peut également passer par l'introduction de légumineuses qui, elles-mêmes, permettent au système d'élevage d'être plus autonome en matière d'alimentation animale. Donc on voit vraiment qu'il y a des boucles d'interaction entre ces cinq grandes familles de leviers. Donc on a vraiment cherché à les mobiliser et à trouver un point d'équilibre finalement sur les hypothèses structurantes derrière chacun de ces leviers. On pourra rentrer dans les détails si vous avez évidemment des questions. Je vais juste présenter rapidement les grandes hypothèses prises pour ces cinq grands sujets. Sur les systèmes d'élevage, nous avons eu trois grands partis pris. Un premier qui est de préserver les systèmes les plus vertueux. Les systèmes les plus vertueux, c'est pour les ruminants, des systèmes d'élevage plus pâturants et plus autonomes en matière d'autonomie d'alimentation animale. Pour les monogastriques, donc les poulets et les porcs, c'est des systèmes mieux répartis sur le territoire. Il s'est également agi de diminuer les effectifs, mais de façon maîtrisée et limitée. Donc on propose des hypothèses assez prudentes sur la diminution des cheptels, qui permettent de ralentir le rythme actuel de diminution de ces cheptels. Et troisième parti pris sur l'élevage, diminuer les émissions importées, notamment d'alimentation animale, en particulier de soja. Sur l'énergie, on arrive dans notre scénario à 20% d'efficacité énergétique et à décarboner à 100% l'énergie utilisée sur les fermes et à produire un surplus pour d'autres secteurs. Sur la fertilisation, on a des hypothèses très ambitieuses de développement massif des légumineuses. On multiplie par 3 les surfaces et on développe au maximum les couverts végétaux. Et enfin, dernier thème quantitatif, le stockage de carbone. Il s'agit ici de maintenir toutes les surfaces qui actuellement présentent des stocks de carbone, donc en particulier les prairies permanentes, et de développer les pratiques, notamment la couverture des sols, le semis direct, les haies et l'agroforesterie qui permettent de générer du stockage additionnel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Corentin qui va vous montrer à quel point il faut activer de manière ambitieuse ces leviers et également anticiper leur mise en œuvre si on veut que les objectifs soient atteints à horizon 2050.
Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. En fait, ces leviers hein, qu'on a mobilisés pour notre modélisation, le gros enjeu dont on retient le cœur, c'est qu'on a besoin de massifier et donc de faire en sorte que ces leviers soient adoptés sur la grande majorité des fermes. Et donc pour ça, on s'est posé la question de ce que pouvaient faire, ce que voulaient faire les agriculteurs. C'est cette question donc qui est à l'origine de la grande consultation des agriculteurs. Le premier message qu'on en retient, c'est que plus de 80% des répondants sont inquiets par rapport à la vulnérabilité de leur ferme vis-à-vis des enjeux climatiques, énergétiques ou liés à l'eau. Le second message, là encore qu'on retient, c'est que seulement 7% déclarent ne vouloir s'engager dans la transition agroécologique sous aucune condition. Et le corollaire de cela, c'est que 87% d'entre eux posent une condition économique pour s'engager ou pour accélérer la transition. Et ce qu'on en conclut, c'est que finalement, l'enjeu se situe certainement derrière le besoin de repenser les paradigmes économiques. Alors ça, c'est le déclaratif de ce sondage qu'on a mené auprès de plus de 7700 agriculteurs, mais qui est également confirmé par les analyses économiques qu'on a pu étudier. Et donc, le contexte, quand on remonte jusque dans les années 60... Ça a été mené par donc c'est que la valeur ajoutée finalement a été divisée par deux dans les exploitations, avec une part de plus importante de subventions dans le revenu net agricole. Et ça, on doit le relier à la politique agricole commune hein, qui assure la répartition économique au niveau agricole. La PAC, elle avait pour objectif d'assurer un approvisionnement suffisant à la population d'un point de vue alimentaire. Et donc, pour ce faire, jusque dans les années 92, elle encadrait les marchés avec un système de prix minimum garanti. Et suite aux années 90, on est rentré dans une logique d'aide découplée, donc d'aide à l'hectare de subventions qui ne sont pas liés à la production, et ce, donc, en abandonnant cette logique de structuration des marchés. Et donc, on voit que cette logique d'aide, elle a, d'une part, coûté plus cher d'un point de vue subvention, d'un point de vue de la dépense publique, tout en, de l'autre côté, amenant à une diminution du revenu des exploitations. Ça nous amène à proposer des axes de recommandation. Le premier constat qu'on dresse, c'est qu'il y a un enjeu à assumer une hausse des coûts de production pour pouvoir, là encore, massifier les leviers de transition. Il y a un enjeu à agir simultanément sur l'offre et la demande. On pense en particulier à l'agriculture biologique, où il y a eu beaucoup d'incitations autour de l'offre, et que finalement, c'est la demande qui s'est effondrée et qui n'a pas été certainement pas suffisamment accompagnée. Le dernier point, c'est qu'il est certainement préférable de privilégier des mesures incitatives aux mesures coercitives. La transition agroécologique, elle va se passer concrètement sur les fermes, et donc c'est à cette échelle-là que ça doit être mis en œuvre. Et on pense pour ces acteurs qu'il y a un enjeu à diffuser les connaissances et les pratiques. Mais tout ça, c'est possible uniquement si, à l'échelle territoriale, les filières, les infrastructures, les territoires jouent leur rôle pleinement pour accompagner la structuration de filières, organiser des arbitrages à cette échelle sur la biomasse et l'eau, favoriser des systèmes qui sont plus résilients, adaptés aux enjeux locaux, et plus globalement donc planifier cette transformation agricole à l'échelle du territoire. Là encore, il s'agit d'y donner les moyens, et donc à l'échelle française et européenne, on pense qu'il y a un enjeu à clarifier les objectifs stratégiques et à outiller les politiques publiques à la hauteur de ces ambitions, à garantir la sécurité économique des agriculteurs, notamment vis-à-vis de la fluctuation des marchés, mais aussi vis-à-vis des aléas climatiques qu'ils vont être amenés à rencontrer de plus en plus souvent, et enfin d'anticiper les besoins en compétences, en recherche, connaissances, etc., rôle qui, à notre sens, revient à l'État. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition, de même que mes collègues.
Merci beaucoup. Je vais donner la parole aux orateurs des groupes. Et donc, on démarre pour 3 minutes avec Emmanuel Bléry.
Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Votre rapport soulève des enjeux cruciaux pour l'agriculture française, notamment la nécessité de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de renforcer sa résilience face aux crises climatiques et économiques. Ces objectifs, bien que louables, ne doivent pas faire oublier les réalités vécues par nos paysans. Tout d'abord, le Rassemblement national défend l'idée que l'agriculture française ne pourra réussir sa transition écologique sans garantir des prix rémunérateurs aux paysans. Or, votre rapport ne semble pas suffisamment traiter de cette question essentielle. Comment entendre des agriculteurs qu'ils investissent dans des pratiques agroécologiques sans une juste rémunération de leur travail ? Les transformations proposées ne doivent pas se faire au prix de leur survie économique. Très clairement, nous déplorons l'idée de la décroissance. Ensuite, il est urgent d'agir et de mettre fin donc à l'inflation normative qui étouffe les exploitants agricoles. Votre rapport propose des ajustements structurels qui risquent d'ajouter des contraintes administratives supplémentaires. Nous devons simplifier les normes agricoles tout en maintenant un haut niveau de qualité de sécurité alimentaire. Il est essentiel que cette transition ne devienne pas un fardeau administratif supplémentaire pour nos paysans qui peinent déjà à s'y retrouver dans la jungle réglementaire. Par ailleurs, pour promouvoir une agriculture durable et souveraine, nous devons renforcer les circuits courts. Ces derniers permettent de garantir une juste rémunération des producteurs tout en rapprochant les consommateurs de leur territoire. Soutenir les circuits courts, c'est non seulement réduire l'empreinte carbone des filières agricoles, mais aussi revitaliser nos territoires ruraux et garantir une alimentation de qualité à nos concitoyens. Enfin, nous défendons un moratoire sur les traités de libre-échange qui fragilisent nos filières agricoles en favorisant l'importation de produits issus de systèmes moins exigeants sur le plan environnemental et social. Vos propositions pour relocaliser la production, réduire les émissions importées vont dans le bon sens, mais elles seront vaines si nous continuons à accepter des produits agricoles qui ne respectent pas les normes imposées à nos propres agriculteurs. Ce dumping environnemental et social doit clairement cesser. Ma question est donc la suivante. Comment intégrer dans votre vision une garantie des prix rémunérateurs pour les paysans, une réduction de l'inflation normative, une priorité au circuit court et une remise en question des traités de libre-échange afin que cette transition ne sacrifie pas notre souveraineté alimentaire et n'étrangle pas davantage nos exploitants agricoles. Je vous remercie.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors, le consentement à agir du monde agricole était bien évidemment au centre de nos préoccupations, puisque nous avons mené cette consultation qui était une première au sein des travaux du Shift Project. On n'a jamais fait ça dans aucun autre secteur avant. Et on a obtenu après quasiment 8000 réponses d'agriculteurs, ce qui est très significatif au regard des effectifs du secteur. Et on leur a bien évidemment posé la question, c'était contenu dans l'exposé qu'on a fait, de ce à quoi ils étaient prêts, ce à quoi ils n'étaient pas prêts. Et on a pris le plus grand soin de poser les questions pour que personne ne se sente, j'ai envie de dire, sous pression pour répondre dans un sens, parce que la réponse allait bien faire. Donc on a vraiment posé les questions de telle sorte que, quelle que soit la réponse qu'ils fassent, ils ne se sentent pas mis en accusation ou pas mis sur la sellette, ou etc. Et les grandes conclusions qu'on en retire, c'est qu'il y a un souhait d'action très très largement partagé dans le secteur, et que la limite, c'est celle que vous avez soulignée, mais c'est celle qu'on a soulignée également dans notre exposé, c'est une limite économique. Alors je vais quand même rappeler un point essentiel à nos yeux. Quand vous passez la caisse d'un magasin, hein, d'un distributeur, etc., il y a 7% du ticket de caisse qui va à l'agriculture. 7%. Je vous rappelle que la dépense alimentaire des Français, c'est 15%. Donc 7% de 15%, vous êtes capable de faire le calcul comme moi, ça veut dire que les agriculteurs gagnent 1 à 1,5% de ce que dépensent les ménages, c'est-à-dire quasiment rien. Et en fait, une fois qu'on a ce chiffre en tête, on comprend que dès lors qu'on est capable, et ça fera partie de nos travaux à venir, de ne pas avoir des augmentations de prix proportionnelles à l'aval de la chaîne quand on augmente les coûts de production dans les exploitations, en fait, on a des marges de manœuvre assez significatives pour augmenter les coûts de production dans les exploitations elles-mêmes sans ruiner les consommateurs. Ça, c'est pas quelque chose qui est insurmontable à nos yeux. En ce qui concerne la question du libre-échange et du Mercosur, pour ne pas le nommer, je ne vous rappellerai pas la tribune qu'un certain nombre d'entre vous ont probablement signée. Il y a une unanimité assez forte dans ce pays. On l'a retrouvée dans la consultation du monde agricole et au Shift Project. On partage cette vue qui est qu'évidemment, il ne faut pas donner des fouets pour se faire battre. Enfin, on ne proposera absolument pas qu'il y ait des mesures qui soient mises en œuvre dans ce pays, qui ne soient pas dans des clauses miroirs, enfin, qui ne soient pas dans un cadre tel que ça nous désavantage. Il faut évidemment protéger les pratiques vertueuses sur le plan économique quand on décide d'en faire. C'est absolument évident. Voilà, quelques premiers éléments. Alors, il faut savoir qu'au Shift Project, on voit toujours l'économie sous l'angle physique d'abord, physique-biologique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux flux qui permettent à l'activité d'exister. Donc là, dans le domaine agricole, on a parlé sol, on a parlé biologie, on a parlé rendement, on a parlé heures de travail, on a parlé compétences, donc on a parlé de trucs qui se touchent, j'ai envie de dire. L'argent, ça se touche un peu, mais moins. Et donc, l'économie, on voit ça comme une condition limite. On regarde ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on regarde vraiment comment est-ce qu'idéalement, il faudrait organiser le système pour qu'il flotte. Voilà. Et puis, je laisse mes collègues compléter un tout petit peu.
Pour compléter très brièvement, si on peut avoir le partage d'écran, s'il vous plaît. Et pour abonder hein, dans ce sens, c'était aussi une des questions qu'on a souhaité poser lors de la grande consultation des agriculteurs. Et on le voit, il y a un vrai enjeu. C'est d'ailleurs la première politique publique que les agriculteurs appellent de leur vœu. C'est de protéger, d'être protégés contre les effets de la concurrence internationale. Et donc ça abonde effectivement dans ce sens.
Merci. Je donne la parole à Pierre Cazeneuve pour poursuivre pour 3 minutes.
Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Le Quéré, Monsieur Jean Covici et Pierre Denoyer. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présence ce matin et surtout pour votre venue nous présenter ce rapport mené avec le Shift Project qu'on a lu avec beaucoup d'attention. On le sait, le secteur agricole représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais ce qui apparaît dans votre étude qui a été menée auprès de presque 8000 agriculteurs, c'est évidemment le fait que pour une immense majorité d'agriculteurs, il y a la volonté farouche d'opérer les changements structurels et la transition nécessaire pour parvenir à mener cette transition. Nous le savons, les agriculteurs, ce sont intrinsèquement des entrepreneurs qui, depuis la nuit des temps, enfin, depuis le début de l'agriculture, c'est pas tout à fait la nuit des temps, se sont adaptés au quotidien. Ils font évoluer leurs pratiques, leur culture, leur approche de leur exploitation. Ils sont au plus proche de nos territoires. Ils connaissent leur sol, leur écosystème. Et par ailleurs, et c'est presque un paradoxe, ce sont les premiers à être les victimes de ce dérèglement climatique et être confrontées à leurs conséquences. Dans les conclusions de votre étude et dans, notamment de ce grand sondage que vous avez pu mener auprès de ces 8000 agriculteurs, encore une fois, je retiens cette volonté affichée et très majoritaire de participer à ce changement. Et je retiens également, évidemment, ce que vous avez mené, c'est-à-dire que c'est ceci derrière, il y a une clé économique, une lecture économique à avoir pour redonner aux agriculteurs de la valeur ajoutée, des marges, et ce qui a mené à une de vos conclusions, qui est de dire qu'il vaut mieux avoir des mesures incitatives que punitives. Une de mes questions derrière, c'est au-delà même du changement quasiment systémique qui est nécessaire autour de la redistribution de la valeur ajoutée et du modèle agricole, est-ce que vous avez estimé les coûts de l'accompagnement, notamment de l'État, sur, on va dire, les politiques publiques au sens large qui devraient être nécessaires pour atteindre les objectifs et notamment de votre quatrième scénario alternatif que vous avez présenté très rapidement. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, il est aussi un peu plus technique, pardon, sur le sujet de la biomasse. On sait qu'il y a aujourd'hui un énorme enjeu autour de la gouvernance, notamment de cette biomasse. Si on écoute notamment l'ensemble des acteurs énergétiques, si vous voulez, ils vous expliquent qu'on est capable de décarboner le gaz, de décarboner le carburant, on est capable de tout faire avec aujourd'hui avec la biomasse parce qu'il y a les gisements nécessaires, mais on sait très bien qu'il y a un peu de double comptage, on sait très bien qu'il y a des aléas, on sait très bien qu'il y a une dimension géographique très forte puisque la biomasse, elle est très inégalement répartie sur notre sol. Et donc ça, c'est une question un peu importante pour moi sur comment vous visualisez cette gouvernance de la biomasse. Et enfin, pardon, je finirai très rapidement sur la méthodologie. Contrairement au logement, contrairement au transport, on voit bien dans nos diagrammes d'émissions de GES, l'agriculture, elle a une dimension très spécifique, c'est qu'elle est aussi contributrice de notre baisse des émissions de gaz à effet de serre et elle a des externalités positives très fortes, à la fois évidemment sur la biodiversité, on le sait, à la fois sur la captation des CO2, à la fois, comme on l'a dit, sur la production d'énergie décarbonée, notamment avec les gisements de biomasse. Et donc j'aimerais savoir aussi, parce que quand on réduit l'agriculture à seulement 20% d'émissions de gaz à effet de serre, et je finis là-dessus, Madame la Présidente, on oublie parfois, et en tout cas on a du mal à calculer et à embarquer tout ce que l'agriculture produit pour l'environnement et pour la décarbonation, et ce formidable gisement que c'est pour la décarbonation de notre pays. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir été un peu long, Madame la Présidente. Bonne année.
Je vous laisse la parole pour répondre.
Alors, je vais commencer par la fin pour dire que c'est mes collègues qui répondront sur la partie externalité positive. On a regardé bien évidemment cette question de la contribution possible de l'agriculture au stockage et en fait ça a été un des éléments différenciants dans les recommandations qu'on peut faire sur le développement de telle filière ou de telle autre filière, par exemple dans l'élevage. Les coûts, on n'a pas regardé, pour être très franc, parce que en fait, l'entrée, comme je l'ai expliqué juste avant, l'entrée du Shift Project dans les problèmes, c'est avant tout une entrée physique. C'est ça notre élément différenciant, c'est qu'on commence, parce que la physique ne dépend pas de nous, la biologie ne dépend pas de nous, les coûts un peu plus. Donc on commence par regarder ce qui ne dépend pas de nous. Il nous semble que c'est la bonne manière de hiérarchiser les priorités. On n'a pas regardé ça. En ce qui concerne la question de la concurrence d'usage sur la biomasse, c'est précisément notre clé d'entrée dans le sujet. Aujourd'hui, quand vous regardez qui veut de la biomasse, alors les avionneurs en veulent pour faire des carburants d'origine durable, les constructeurs en veulent pour faire des constructions en bois, les énergéticiens en veulent pour faire des réseaux de chaleur et pour faire des centrales électriques au bois, les gaziers en veulent pour mettre du biogaz dans les réseaux, et j'en passe et des meilleurs. Alors, comme la photosynthèse est-ce qu'elle est, et que le nombre d'hectares de la France est-ce qu'il est, la France est un grand pays, mais c'est quand même que 1 pour 1000 de la superficie mondiale, nous avons un sujet de concurrence d'usage. Et il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire une allocation optimale de la biomasse qui pousse. Alors la première conclusion, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, c'est absolument évident. Je vais juste vous donner un calcul d'ordre de grandeur pour illustrer. Vous avez peut-être entendu parler du projet Biojet dans le sud-ouest là, qui vise à faire des carburants d'origine durable pour les avions. Moi, j'ai fait une petite règle de 3. Si on devait remplacer tout le kérosène qui est servi aux avions qui décollent d'un aéroport français par ce genre de procédé, il n'y aurait plus un mètre cube de bois de la forêt française disponible pour faire autre chose. D'accord ? Voilà. Donc, c'est évident que il n'y aurait plus de construction, il n'y aurait plus de bois pour les charpentes, il n'y aurait plus rien. D'accord ? Plus de bois pour les réseaux de chaleur, plus de rien. Bon. Donc, vous voyez bien que cette histoire de la concurrence d'usage est centrale. Et en fait, c'est au centre aussi des réflexions du Shift Project. C'est-à-dire que à un moment, le mot bouclage est apparu très rapidement dans la présentation qu'on a faite, qu'on pourra vous laisser. Hein, donc, on vous l'enverra si vous voulez. C'est un de nos axes de travail. C'est-à-dire, quand on a des ressources contraintes, comment est-ce qu'on peut imaginer les répartir ? Et ça renvoie fatalement à des préférences sociales. Moi, je ne sais pas dire. Si les Français ont le choix entre manger 4 fois moins de viande et prendre un peu plus l'avion ou l'inverse, comment ils ont envie d'arbitrer ? La seule manière de le savoir, ça serait de leur demander. Pour le moment, on ne leur pose pas ce genre de questions, parce que la façon dont est organisé le débat public, ce n'est pas que vous allez avoir droit à ça ou ça, c'est que vous allez avoir droit à tout. C'est particulièrement vrai dans le monde que vous fréquentez. Mais il faudrait leur poser la question. Alors, de temps en temps, on essaye de s'y atteler. Là, on ne l'a pas fait, hein, en l'occurrence. On ne demande pas aux gens. Mais c'est évident qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, nous, on fait des propositions. Et ce qu'il y a dans le rapport, c'est une proposition. Voilà.
Sur la question des externalités positives de l'agriculture, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Alors, c'est une question qu'on a évidemment étudiée et qu'il est en effet bon de rappeler. Donc, il y a deux sujets. Il y a en effet la production énergétique par les biogaz et les biocarburants, qui en effet peut être utile soit pour le secteur agricole lui-même, soit pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est 7 millions de tonnes CO2 équivalent qui sont évitées par cette production. Dans notre scénario, on arrive même à dégager des surplus pour d'autres usages. Donc, c'est en effet significatif. Et il y a le sujet du stockage de carbone. Donc, sur le sujet du stockage de carbone, aujourd'hui, c'est un potentiel qui n'est pas valorisé pour différentes raisons, et notamment du fait de l'urbanisation, du retournement des prairies, donc c'est-à-dire la conversion de prairies en culture. Et aujourd'hui, donc, on déstocke du carbone agricole, alors qu'on a des stocks importants sous le sol. Le potentiel de stockage additionnel par des pratiques comme les haies, l'agroforesterie, etc., il a été étudié dans plusieurs études et il est conséquent, entre 30 et 50 millions de tonnes CO2 équivalent. Donc, c'est-à-dire c'est les deux tiers des émissions actuelles directes, donc c'est vraiment conséquent. Et dans notre scénario, on a pris des hypothèses assez prudentes et on arrive à environ à une situation où on déstocke donc environ 10 millions de tonnes, à une situation où on arrive à restocker environ 16 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et donc pour ça, ça nécessite encore une fois de maintenir un maximum des prairies permanentes. Comme le disait M. Jancovici, c'est aussi pour ça qu'on a des hypothèses prudentes sur l'élevage, parce qu'en fait l'élevage a aussi une contribution positive en matière de stockage de carbone, en tout cas de maintien des stocks de carbone. Et ça nécessite de protéger la surface agricole en évitant son urbanisation ou la conversion de culture en prairie. La conversion, pardon, de prairie en culture, excusez-moi.
Merci. On poursuit avec Sylvie Ferrer.
Merci, Madame la Présidente. Madame Le Quéré, Monsieur Biardot-Noyer, Monsieur Jancovici, chers collègues, j'ai consulté avec attention votre rapport scientifique pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, qui présente une série de recommandations afin de faire de notre agriculture un véritable outil de lutte contre le réchauffement climatique, tout en garantissant la production domestique et le bien-être des agricultrices et agriculteurs. Vous l'avez rappelé, rien ne se fera sans les accompagner dans la transition du modèle agricole. Vous évoquez les mesures essentielles telles que la mise en place de mécanismes protectionnistes, notamment au sein de l'Union européenne, de prix rémunérateurs pour nos paysans, d'aides couplées pour certaines productions, de concertations renforcées autour de la ressource en eau, de la remise en cause du principe absolu du marché. Par ailleurs, nous devons baisser notre consommation de viande, veaux, vaches, porcs et volailles, en diminuant drastiquement celles issues des élevages dits intensifs, gros consommateurs d'intrants et d'aliments venus de l'autre bout de la planète, pour favoriser les élevages au pâturage, complémentés de cultures locales. J'ajoute un point qui n'est pas souligné, c'est celui du détricotage des abattoirs de proximité abandonnés par l'État, qui de fait entraîne une augmentation du temps de transport pour les animaux, mauvais pour le bilan carbone et le bien-être animal. Ces idées ont reçu un accueil favorable de la part de représentants du monde agricole. La porte-parole de la Confédération paysanne a notamment évoqué, je cite, « Ce travail était important à faire, le résultat est hyper intéressant ». Toutefois, malgré des lignes directrices claires, je pense que plusieurs interrogations persistent quant à la place que vous donnez à l'agriculture biologique à l'horizon 2050, à votre position sur les projets de méga-bassines, ou bien encore à ce que vous recommandez concrètement afin que les Françaises et les Français ne reportent pas leur consommation sur des produits agricoles importés moins chers. Dans votre rapport, vous dites, je cite, que le projet de loi d'orientation agricole est l'occasion de clarifier les priorités et de penser un nouveau contrat entre la société et le secteur agricole. Sur ce point aussi, une question me taraude. En l'état, Pensez-vous que ce projet de loi offre un nouveau cap à l'agriculture française en mettant en œuvre vos recommandations ? Plus largement d'ailleurs, que pensez-vous des politiques agricoles récentes et prochaines ? Je vous remercie pour votre éclairage sur ces 5 points.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors, je vais beaucoup vous frustrer sur le projet de loi. Moi, je ne l'ai pas regardé en détail, donc j'ai malheureusement pas de réponse à vous faire. Sur la partie syndicat, en fait, nous, notre souhait, c'est de créer du consensus. C'est bien pour ça qu'on s'est adressé directement aux agriculteurs. Alors, les syndicats, on a discuté avec tout le monde, parce que la façon dont on travaille au Shift Project, c'est qu'on a envie de discuter avec tout le monde quand on s'intéresse à un secteur. Et on a par ailleurs, on a toujours envie d'avoir au sein du secteur des interlocuteurs qui sont les gens qui vont devoir faire. Donc on sait bien qu'on est des intellos parisiens et que ce n'est pas nous qui allons derrière nous retrousser les manches. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est toujours de discuter avec des gens du secteur pour s'y faire un maximum, j'ose le mot, d'alliés, c'est-à-dire de gens qui ont envie d'aller dans notre sens. Et on ne cherche pas à faire en sorte que ces gens-là appartiennent à un syndicat, à un parti, à une obédience particulière. Donc on discute avec tout le monde et notre souhait, c'est de créer du consensus. C'est ça notre philosophie. Donc là, dans ce domaine-là, on a évidemment discuté avec tous les syndicats agricoles, la Confédération comme les autres. Mais on n'a pas cherché à se mettre dans les traces ou dans les pas d'un organisme représentatif particulier. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est créer du consensus. Voilà. Sur les points plus techniques, je vais laisser mes collègues répondre.
Merci beaucoup. Effectivement, sur la partie agriculture biologique, dans nos scénarios, on a fait une projection à 2050 de 25% d'agriculture biologique sur les grandes cultures, enfin sur les surfaces cultivées, sur les terres arables, auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'autres pratiques qui pourraient s'y assimiler, mais qui ne répondent pas à un cahier des charges. Et ces choix qu'on a fait de rentrer principalement par les pratiques agricoles, c'est que finalement, il ne s'agit pas, à notre sens, de regarder les certifications et labels, mais bel et bien d'entrer par la question des enjeux physiques. Les principaux critères autour de l'agriculture biologique, c'est l'absence totale de produits phytosanitaires de synthèse, mais pas de tous les produits phytosanitaires, par contre, l'absence totale d'engrais azotés de synthèse. Or, on l'a vu, c'est un des principaux vecteurs d'énergie rentrant dans le système agricole. En fait, l'azote, c'est un facteur limitant des systèmes. Et donc, de vouloir proscrire complètement les engrais azotés de synthèse nous semblait une hypothèse trop dure ou trop radicale en termes d'effet sur la productivité de l'ensemble du système pour qu'on la massifie en tant que telle. Néanmoins, on baisse de 70% en sortie de modèle. On a un résultat qui nous amène à une diminution de l'ordre de 70% de la demande d'engrais azotés de synthèse. Et donc, finalement, on aurait des choses qui s'approcheraient quand même très près de ce que pourrait être l'agriculture biologique, sous cet angle de l'azote. Sur la question du stockage de l'eau, assez largement, on renvoie à des arbitrages à une échelle locale et territoriale, parce qu'en fait, c'est à cette échelle que se situent les conflits d'usage sur la ressource. Et donc, on n'a pas une position pour ou contre les bassines, mais avec un enjeu, à notre sens, de bien regarder l'adéquation aux différents enjeux des territoires, tout en se projetant et en anticipant les questions climatiques.
Merci. On poursuit avec Chantal Jourdan.
Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous vous remercions donc pour vos travaux denses. Après une identification claire des dépendances et vulnérabilités de l'agriculture, vous mettez en évidence tous les efforts à faire pour atteindre l'objectif d'une agriculture bas carbone en 2050, auquel vous ajoutez un objectif de résilience et de prospérité. Vous aboutissez à un scénario global de conciliation qui prévoit une réduction des effectifs des cheptels associée à une extensification des élevages, qui préconise les pratiques agroécologiques, qui met l'accent sur la nécessité de modifier les productions culturales, qui fait une place à la production d'énergie renouvelable par le renforcement de l'agroforesterie, mais aussi par le renforcement de l'agrivoltaïsme et de la méthanisation. Donc à l'annonce de tous ces débouchés, je m'interroge quand même sur les éventuels conflits d'usage des terres qui pourraient survenir. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de mettre d'abord en avant vraiment la première fonction de l'agriculture, l'alimentation, considérant que la fonction de production énergétique à la ferme ne peut être que secondaire ? Par rapport à l'alimentation, vous indiquez que vous poursuivrez le travail en vous penchant sur cet aspect. Vous intéresserez-vous plus précisément aux changements de comportement alimentaire préconisés, par exemple en matière de santé publique, qui pourraient à la fois répondre aux enjeux sanitaires et aux enjeux climatiques. Par exemple, vous inspirerez-vous du scénario AFTER, puisque je crois que vous avez aussi consulté Negawatt. Je m'interroge aussi dans ce scénario de conciliation, là, je m'excuse, la question a déjà plus ou moins abordé, mais sur la proportion donnée à chaque modèle d'exploitation. Quelle place réservez-vous pour la bio, pourtant peu émettrice de gaz à effet de serre? Vous énoncez qu'un choix de société est à faire rapidement. Pour notre part, nous pensons que le soutien à l'agriculture doit prioritairement se porter vers l'agroécologie, notamment vers les modèles de polyculture avec élevage extensif, qui permettent moins de mécanisation, plus d'autonomie fourragère, le maintien des prairies, qui sont constitutives d'un puits de carbone performant et garantissent par ailleurs la préservation de la biodiversité. Alors, qu'en pensez-vous?
Merci. Je vous donne la parole pour répondre à la question.
Merci, madame, pour la question. Alors, sur le sujet des choix, des priorités stratégiques entre autonomie alimentaire et production d'énergie, c'est effectivement une question qu'on a choisi d'arbitrer dans notre scénario de conciliation, puisque vous le voyez ici avec quelques indicateurs clés. Dans notre scénario de conciliation, il y a une priorité à l'autonomie alimentaire. La production d'énergie ne vient en effet qu'en deuxième plan. Vous voyez sur les indicateurs, donc le dernier graphe en bas, le scénario de conciliation étant tout à droite, il est très légèrement supérieur en termes de production d'énergie par rapport au scénario d'autonomie alimentaire. Sur le potentiel nourricier, il est très largement supérieur au scénario énergétique. Donc c'est bien une priorité qu'on a fixée dans notre scénario.
Et concernant la lecture des autres scénarios déjà existants, on s'est appuyé sur les autres travaux, donc ceux conduits par l'ADEME, également ceux conduits par Solagro, donc le scénario AFTER 2050, et les travaux de l'IDRI, donc avec le scénario TIFA. Donc, tous ces travaux ont fait partie de notre corpus d'inspiration, et on s'est appuyé sur des outils développé par Solagro pour construire nos propres scénarios, donc par les auteurs du scénario AFTER. Et donc on a eu des échanges constants aussi avec eux.
Merci. Donc on poursuit avec Antoine Vermorel-Marquez.
Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Le Quéré, Monsieur Biardot-Noyer, Monsieur Jancovici. Je tiens tout d'abord, au nom de notre groupe, à vous remercier pour la qualité de vos travaux, même si on n'est pas toujours d'accord avec les conclusions qu'ils portent, mais ça nous permet de challenger notre pensée et de clarifier nos choix. Et pour clarifier ces choix, il faut d'abord les objectiver, et ce rapport permet de compléter le plan de transformation de l'économie française que vous aviez publié, sur lequel il nous semblait qu'il y avait besoin de précisions, notamment en matière de stockage du carbone dans l'élevage, et également concernant les importations de produits agricoles. Et donc le rapport que vous publiez aujourd'hui vient préciser ces deux sujets sur lesquels je voudrais de nouveau vous interroger. En matière d'élevage, et vous l'avez dit Madame Le Quéré, vous êtes sur une hypothèse prudente parce que les connaissances que nous avons aujourd'hui ne sont pas claires concernant les externalités négatives et positives. Dans le plan de transformation de l'économie française que vous aviez publié il y a quelques années, vous preniez une baisse de 60% de la consommation de viande. Or, on peut certainement faire moins, mais surtout mieux et mieux produire. Et sur ce premier, je voudrais citer, comme vous le citez à plusieurs reprises dans votre rapport, les prairies permanentes et notamment la question du stockage du carbone. Il est vrai que nos vaches émettent du méthane dans nos campagnes, mais sans elles, il n'y aurait pas de prairies, pas d'insectes, pas d'abeilles et pas de stockage de carbone. Car oui, si l'on regarde les derniers rapports et notamment le premier rapport de l'INRAE de 2020 sur le sujet, que je cite, « exprimé en équivalent CO2, la quantité de carbone stockée par la prairie permettrait globalement de compenser la quantité de méthane émise par les animaux valorisant cette même prairie. » Ce sujet de l'externalité négative de l'élevage est trop peu pris en compte dans les rapports actuels, et donc je souhaiterais vous interroger notamment sur les différents types d'élevage en fonction des différents types d'externalités positives et négatives qu'ils émettent, parce que c'est là la distinction qui est très importante. Le deuxième sujet sur lequel nous souhaiterions vous interroger, c'est la question des importations, et notamment la question des clauses miroirs. En 20 ans, les importations de viande ont d'ailleurs été multipliées par 4. Vous insistez sur la souveraineté agricole et la réciprocité des normes. Cela fait l'objet d'une des propositions de loi que nous portons pour renforcer l'article 44 de la loi Egalim. Aujourd'hui, nous avons déjà 20% de notre alimentation qui est importée depuis l'étranger. Et 10 à 25% de ces produits, d'après un rapport du Sénat, ne respecteraient pas nos normes sociales, sanitaires et environnementales. Et donc nous nous interrogeons toujours sur un plan de transformation de l'agriculture française qui ne prend pas en compte ou pas suffisamment en compte la question des clauses miroirs et de la réciprocité. Et donc on aimerait vous interroger sur cette question pour savoir comment justement renforcer et qu'est-ce que vous dites sur les 20% de l'alimentation française qui est importée. Et enfin, même si cela dépasse le cadre de notre échange dans notre commission ce matin, je n'ai pas vu votre réaction, M. Jancovici, sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et donc je serais heureux de savoir ce qu'en pense le Shift Project. Je vous remercie.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors, je vais commencer par beaucoup vous frustrer sur la dernière question. Je ne l'ai pas écoutée, donc pour le moment, je n'en pense strictement rien. Voilà. La seule chose que je pense, c'est qu'il dépend notamment de vous et de vos collègues de savoir s'il sera toujours Premier ministre dans 3 mois. Mais ça, ce n'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Et je n'ai pas d'action chez lui, hein, je précise. Alors, pour en revenir à la question de l'élevage, vous savez probablement aujourd'hui qu'il y a déjà une baisse tendancielle du nombre de têtes dans le cheptel français et que cette baisse est actuellement de 2,7% par an. Merci. Cette baisse est actuellement de 2,7% par an. Nous, on propose une baisse de 1% par an. Donc, en fait, paradoxalement, par rapport à la baisse tendancielle du cheptel actuel, nous, on propose de la ralentir, cette baisse. D'accord ? Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est quand même ça qu'on propose. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les émissions annuelles de méthane du cheptel français ne compensent absolument pas le stockage annuel de carbone dans les prairies. Les prairies sont un stock de carbone pour l'essentiel à l'équilibre. Et ce qui a été dit par Laure tout à l'heure, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher au stock de carbone parce que ça crée du déstockage. Mais le fait de garder des prairies ne crée pas un stockage de carbone qui compense les émissions de méthane. Ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. La troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les types d'élevage ne se valent pas. Et c'est bien pour ça que nous, on propose de maintenir prioritairement, que ce soit chez nous ou via justement la limitation des importations, question suivante, de privilégier les modes d'élevage qui sont les plus vertueux, qui sont en gros de l'élevage sur prairie permanente. Alors, il faut savoir que le contenu carbone d'un kilo de bœuf entre la méthode la plus vertueuse qu'on peut trouver dans certains pays européens et la méthode la plus défavorable, qui est en gros du pâturage sur déforestation récente, il y a un facteur 10, je dis bien un facteur 10 dans les émissions par kilo de bœuf entre les deux. Donc, un des enjeux, c'est précisément d'avoir ça en tête et de savoir différencier les émissions par animal élevé en fonction du mode d'élevage et notamment du fait que ce mode d'élevage a impliqué à un moment ou à un autre de la déforestation ou pas. Voilà. Sur les prairies existantes, on peut faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure par Laure, notamment la question de l'agroforesterie. Alors, il y a également tout le stockage dans les cultures par le couvert végétal permanent, mais ça ne concerne pas directement l'élevage. Et puis il y a un sujet indirect d'amélioration aussi des émissions de l'élevage via les légumineuses, parce qu'à partir du moment où on a plus de légumineuses produites en France, un, on importe moins de protéagineux ayant engendré de la déforestation, et deux, on fabrique moins d'engrais azotés, puisque les légumineuses stockent de l'azote dans le sol, et la fabrication des engrais, comme on l'a montré tout à l'heure, est un poste significatif d'émissions dans le système agricole. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de mesures qu'on propose pour faire en sorte que l'élevage rentre dans les clous. Et les clous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'agriculture colle dans le budget carbone de la SNBC. Donc notre scénario de conciliation, à l'arrivée, il coche cette case. D'accord ? Il coche la case qui est, quand on met toutes les mesures, il faut compter, hein, quand on met toutes les mesures bout à bout, eh bien, on arrive à maintenir cet élevage avec juste 1% de baisse. Et alors, vous allez me dire, 1% de baisse, c'est quand même 1% de baisse. Très bien. Moi, j'ai été chez un éleveur laitier il y a quelques mois et je lui ai posé en direct la question et je pense qu'il était représentatif de son secteur. Je lui ai dit, mais si le contrat social, c'est que vous avez moins de bêtes mais qu'on vous les paye plus cher au kilo, vous prenez ou vous prenez ? Enfin, en citoyen en l'occurrence, mais tu prends ou tu prends pas ? Et il m'a dit, moi, je prends. J'ai pas de problème avec ça. Donc, en fait, c'est à la société française, par ailleurs, d'être cohérente avec ses demandes. À partir du moment où on dit on veut que les gens cochent la case environnementale, Ça, c'est pas au Chief Project de le décider. C'est le contrat social entre la population et son agriculture. Hein. Mais si le contrat social, c'est ça, c'est-à-dire qu'on demande à l'agriculture de cocher cette case environnementale, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique de ce qu'on lui demande et que le consommateur, de l'autre côté, dise bah, « à ce moment, j'accepte qu'au kilo, les éleveurs soient mieux rémunérés parce qu'ils vont rendre un service à la collectivité qui est d'avoir un élevage plus respectueux de l'environnement ». Et le résultat de notre consultation, c'est qu'il n'y a pas de problème avec ce discours dans le monde agricole. Donc il y a un problème économique. Encore une fois, il faut qu'on soit cohérent, mais il n'y a pas de position de principe contre ça, telle qu'on l'a ressenti. Par contre, une diminution du cheptel sans contrepartie, ça, les gens n'en veulent pas, ça ressort très nettement aussi de la consultation qu'on a. Enfin, les gens, les éleveurs n'en veulent pas, et il faut se mettre à leur place, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ah oui, pardon, sur les importations. Allez, vas-y, alors, sur les importations.
En complément purement méthodologique, un tout petit point. Dans le périmètre de notre projet, on est vraiment sur le secteur agricole. L'évolution des régimes alimentaires, on sait très bien que c'est un levier important de diminution des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un sujet également pour la question des importations et des clauses miroirs. Et donc ce sujet d'évolution des comportements alimentaires, on va le traiter dans la suite du projet, mais évidemment que c'est un levier majeur au-delà de l'évolution de l'offre en tant que telle.
Juste pour compléter sur les importations, donc d'où philosophiquement on est très à l'aise avec l'idée qu'il faut absolument protéger les pratiques vertueuses de la concurrence qui ne les mettraient pas en œuvre et qui ne se baseraient que sur les prix. Ça, on est tout à fait en phase avec ça. On n'a pas travaillé de propositions précises à ce stade, sans compter que, comme vous le savez, tout ça dépend de l'Union, ça dépend un peu moins de la France. Mais on n'a pas travaillé de propositions précises à ce stade pour rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on pourrait piloter les importations dans le respect ou pas du reste des règles qui sont actuellement en vigueur.
Merci. On poursuit avec Marie Pochon.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre présence, votre rapport documenté et belle année à vous. Vous le dites, l'agriculture française est fortement dépendante des énergies fossiles, des engrais azotés, contrainte dans des jeux de compétitivité liés aux accords de libre-échange, la course au bas prix, contrainte aussi par sa vulnérabilité face au changement climatique. Pour autant, et vous le dites aussi, c'est bien dans notre modèle agricole ou dans la transformation de celui-ci que se niche la plupart des solutions pour contribuer à la neutralité carbone et à notre capacité à nous nourrir demain. Nous devons faire des choix politiques, le choix des dépendances et des contraintes ou celui de l'autonomie et de la souveraineté. Dans votre présentation, vous nous avez parlé de la substitution énergétique qui s'était opérée dans les années 60, mettant fin à l'interdépendance des filières végétales et animales et au système de polyculture-élevage généralisé jusqu'alors. Nourrir le sol, nourrir les plantes pour se nourrir. Peu à peu, ce bon sens paysan a laissé place à la surspécialisation, l'agrandissement, la modernisation, renforçant de fait les dépendances. Venant de Chine, du Maroc ou des États-Unis pour 70% d'entre eux, les engrais minéraux de synthèse ont pris le pas sur les engrais de ferme. Nous sommes entrés dans l'ère d'une agriculture mondialisée qui ne profite souvent ni aux agriculteurs et à leurs revenus, ni aux consommateurs, ni à la qualité des produits, ni à la santé des sols, ni au climat. Vous nous dites possible, souhaité et souhaitable d'agir sur des pratiques de fertilisation en réduisant leur usage, en relocalisant et décarbonant leur production, de favoriser les élevages extensifs, pastoraux ou herbagers, économes et autonomes, de favoriser les pratiques agroécologiques moins intensives en énergie, de préserver les prairies permanentes, les couverts végétaux, de développer les légumineuses. Pour aller vers ces évolutions, vous préconisez de garantir une sécurité économique des agriculteurs en sécurisant leurs revenus et en travaillant sur des filières et des marchés rémunérateurs. Toutes ces propositions, nous les avons portées et débattues dans cette Assemblée. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main au nom du poids des injonctions, tout en en ajoutant en matière de compétitivité, de poids du marché et de dépendance internationale, tout en refusant nos propositions pour des prix rémunérateurs. Concrètement, au-delà du fait que la grande majorité des agriculteurs, comme vous le montrez, seraient évidemment prêts à transformer leur modèle s'ils y étaient accompagnés, quelles sont vos propositions concrètes sur la structuration des exploitations dans cette optique, mais également sur le soutien effectif des politiques publiques à l'élevage extensif face à la concentration des cheptels, et enfin sur les moyens d'arriver à des prix rémunérateurs pour ceux qui nous nourrissent. Je vous remercie.
Merci, je vous donne la parole pour répondre à ces questions.
Alors, un premier élément de réponse. Je suis désolé de m'inscrire un peu en faux de ce que vous avez dit, mais la mondialisation a terriblement profité aux consommateurs. C'est bien pour ça qu'elle a pris place. Elle a également terriblement profité... les combustibles fossiles ont terriblement profité à la productivité côté agricole. Il faut savoir qu'en deux siècles, la productivité par agriculteur a été multipliée par un facteur de l'ordre de 200. 200, hein, on n'est pas en train de parler de 3% d'augmentation. Il y a deux siècles, hein, les deux tiers de la population française étaient au champ agricole. Et avec ça, les gens mangeaient 5 fois moins de viande qu'aujourd'hui, par personne et par an. Le prix réel des produits agricoles, hein, mon petit calcul, c'est qu'en un siècle, il a été divisé par 30 à 50. Je parle bien des prix agricoles. Et tout ça, c'est les combustibles fossiles qui nous ont amenés. C'est bien pour ça que c'est si difficile de s'en passer. C'est parce qu'il y a quand même des gros avantages liés à cette arrivée. Donc la mondialisation, elle est aujourd'hui partout dans le système agricole, puisque nous ne produisons pas de gaz en France. Et dès qu'on utilise un engrais azoté, on utilise du gaz. Nous ne produisons plus de minerais de fer en France et nous n'avons pas de charbon métallurgique. Et dès qu'on a une pièce de tracteur en métal, c'est-à-dire quand même beaucoup de tracteurs, on bénéficie de la mondialisation. Donc en fait, il faut bien voir que la mondialisation, elle est absolument partout aujourd'hui dans nos processus productifs. Elle n'est pas juste dans les produits terminés. Elle est à toutes les étapes du processus. On baigne dans une économie aujourd'hui qui est devenue totalement interdépendante et on serait incapable d'en sortir demain matin sans effondrement du système. Je ne suis pas en train de faire le chantre de la grande mondialisation ouverte. Pour celles et ceux qui connaissent mes positions, vous savez que ce n'est pas ça. C'est juste la réalité physique qu'on observe aujourd'hui. C'est bien pour ça que le système n'est pas si simple à détricoter. Tout à l'heure, dans les dépendances au pétrole qui ont été évoquées par Laure, il y en a une que je vais rajouter, c'est la dépendance aval aux exploitations. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, vous avez entre un camion sur quatre et un camion sur trois qui transporte un truc qui se mange. Donc en fait, la dépendance au pétrole du système, elle n'est pas juste dans les exploitations et elle n'est pas non plus juste à l'amont des exploitations, elle est aussi très fortement à l'aval des exploitations. Et c'est bien l'apparition de tous ces transports faciles et pas chers qui ont permis la spécialisation des zones agricoles et qui aujourd'hui sont indispensables pour que les villes mangent. On s'en est rendu compte pendant le Covid, si demain matin les camions disparaissent, les villes meurent de faim. Voilà. Donc la dépendance, elle est partout. C'est bien ça le problème. Voilà. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive. C'est bien ça notre question. Hein, comment est-ce qu'on arrive à détricoter le système partiellement de telle sorte qu'on en garde l'essentiel de ce qu'on peut avoir comme avantage, tout en supprimant les inconvénients. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est un problème qui est pas si simple. Si c'était si facile, il y a longtemps que ça serait fait. J'ai envie de dire. Voilà. Sur les quelques questions plus précises, je vais laisser mes deux collègues répondre. Sur les prix, on en a déjà parlé. Alors encore une fois, je le répète, on n'a pas fait d'analyse, il n'y a pas d'entrée économique à ce stade dans notre rapport. Philosophiquement, on le dit ou on le répète partout, c'est évident que on peut pas. Moi, je l'ai dit, on peut pas demander à un secteur qui a pas d'argent d'innover. Ça n'existe pas, ça. Et quand on voit encore une fois ce que gagne le secteur agricole au regard de ce qu'on dépense. L'autre jour, j'ai fait un petit calcul, rien qui vous amusera. Les Français dépensent aujourd'hui 2 fois plus d'argent en cigarettes qu'en produits bio. D'accord, le produit bio, c'est 12 milliards d'euros. En France, les cigarettes, c'est 25. Bon. Donc, je pense qu'il y a de la marge pour mieux manger en améliorant sa santé, etc. Je pense que c'est pas avant tout un problème économique si le consensus social, encore une fois, est là.
Je vais répondre sur la partie structuration des exploitations. En fait, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trouvé de réponse technique en tant que tel, c'est-à-dire que comme on est rentré par les questions physiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre par hectare, qu'est-ce qui en sort, quelles sont les pratiques mises en œuvre concrètement, combien de kilomètres de haies, etc. Enfin, voilà, on est vraiment rentré sur ces... on a vraiment travaillé le sujet sur ces entrées-là, qui plus est, une échelle macro qui est l'échelle française hexagonale, et donc on n'est pas descendu à une échelle territoriale et encore moins à l'échelle des fermes en tant que telle. Et donc, on n'a pas de réponse à donner entre est-ce qu'il faut que les fermes elles fassent 10 000 hectares ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles fassent 10 hectares. Par contre, on sait que, quelle que soit la taille de ces fermes, il faut qu'elles soient moins dépendantes des énergies fossiles, il faut que les cheptels réduisent un peu, il faut qu'il y ait beaucoup plus de légumineuses dans les assolements, il faut qu'il y ait des couverts végétaux, des pratiques d'agriculture de conservation, etc. Voilà, le côté technique ne nous permet hélas pas de répondre sur qu'est-ce que la taille optimale des fermes. Et on pense que c'est plutôt un choix de société auquel vous avez plus vocation à répondre que nous.
Merci. Donc on poursuit avec Hubert Hott. Ah pardon, allez-y.
C'est pas long, hein, la lecture de la réponse à la grande consultation. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite vraiment à regarder les résultats. Il y a 12 ou 15 pages. C'est super intéressant, vraiment.
Merci. Donc, on poursuit avec Hubert Hott.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Jancovici, Madame, Monsieur. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette contribution particulièrement bienvenue pour éclairer les débats qui entourent actuellement les sujets agricoles dans notre pays. La particularité de cette enquête réside dans le fait d'avoir réuni un conseil scientifique et un collège d'agriculteurs, permettant ainsi de construire un travail s'appuyant sur des approches complémentaires. L'autre vertu de ce travail est qu'il résulte d'une consultation large de près de 8000 agriculteurs. Dans ce rapport, on note des informations précieuses. 86% des agriculteurs demandent que les objectifs de l'agriculture française soient clarifiés. 90% se disent prêts à accélérer la transition vers des pratiques agroécologiques. Vous rapportez qu'un tiers d'entre eux se disent très préoccupés par l'impact des phytosanitaires sur la biodiversité, tandis que la moitié s'inquiéterait de leurs effets sur la santé des agriculteurs. Vous rappelez que les agriculteurs se trouvent entre le marteau et l'enclume. Ils voudraient que la société s'accorde entre les demandes environnementales qu'elle leur adresse et les demandes de production qu'elle leur envoie. Il existe des moyens d'y parvenir, dites-vous. On peut les aider en les rémunérant directement pour les services écologiques rendus et en les soutenant à travers le prix des produits. Vous expliquez que le nœud du problème agricole est d'abord économique et financier. Vous rappelez que dans notre pays, pour résumer, seul 1% du budget des ménages revient à nos producteurs. Selon vous, l'inégalité des revenus dans la chaîne de l'alimentation, les marges des entreprises de transformation et de la distribution contraignent les agriculteurs à des revenus trop faibles et produisent des conséquences écologiques et sociales regrettables. Ne pensez-vous pas que cet héritage de grande diversité, la force de l'agriculture française, c'est son histoire et son extraordinaire diversité. Notre pays a su mettre à profit une nature généreuse et variée pour développer des savoir-faire agricoles et des productions à la fois multiples et qualitatives. Ne pensez-vous pas que cet héritage de grande diversité dans la production agricole soit notre force ? Ne pensez-vous pas aussi que ces exploitations de tailles très différentes qui coexistent encore sont un atout déterminant ? En conséquence, n'est-il pas indispensable de faire en sorte que ce modèle mosaïque ne soit pas simplifié, mais au contraire encourager pour renforcer toutes les résiliences utiles et précieuses face à la situation climatique que nous traversons, tout en améliorant la cohabitation avec la biodiversité et en valorisant le savoir-faire agricole français. Je rajouterai que le capital nature hérité de notre agriculture historique, avec ses paysages complexes, ses prairies permanentes, ses réseaux de ligneux en haies ou en bocage, ses infrastructures agroécologiques des plus variées, est aujourd'hui une arme majeure indispensable pour faire face à la crise climatique, pour préserver l'eau, pour enrayer la chute du vivant. Le vivant est un atout irremplaçable, sans lequel il n'y a pas d'avenir pour les humains. On ne fabriquera jamais du vivant, mais on fabrique soit un monde qui le dégrade, soit un monde qui le préserve. Merci.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors la question des chaînes de valeur, ça sera quelque chose qui sera indirectement traité quand on va s'attaquer à la partie alimentation, qui est donc la suite de notre travail. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait décidé de procéder en deux temps, même si les deux ensembles marchent la main dans la main. Juste pour faire un petit rappel historique, pourquoi est-ce que la valeur s'est très fortement déplacée des exploitants agricoles, dans le ticket de caisse, vers les transformateurs et les distributeurs? C'est notamment lié au fait que nous sommes devenus des urbains. Comme on est devenus des urbains, on n'habite pas dans les champs. Et par ailleurs, on est devenus des gens qui travaillons à l'extérieur et donc on arrête de faire la cuisine. Le mode d'alimentation des Français il y a un siècle, c'était qu'on habitait tous à côté du paysan du coin ou de la paysanne du coin, que monsieur ou madame Dupont allait chercher les légumes et les œufs et le poulet pour faire le frichti, et qu'on mangeait ce qu'on avait cuisiné. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de paysan du coin. En tout cas, celui qui est à côté de l'Assemblée nationale, je ne le connais pas quand on sort dans la rue de l'université, là. Et donc nous mangeons des produits qui sont nécessairement venus d'ailleurs, donc il y a du transport, de l'emballage, donc de la distribution, donc la logistique, il ne s'agit pas de marge, il s'agit de valeur ajoutée, enfin moi je ne parle pas des marges au sens du résultat net des activités, il y a de la valeur ajoutée qui est passée parce qu'il y a des gens qui tout simplement doivent être occupés à fabriquer des camions pour transporter, conduire les camions, fabriquer les emballages parce que c'est un auxiliaire indispensable du transport, dès que vous avez du transport vous avez des emballages, fabriquer les rayons pour mettre en rayon, fabriquer les magasins, accessoirement faire les campagnes de pub pour nous donner envie d'aller dans le magasin. Et par ailleurs, il y a longtemps qu'on ne fabrique plus les yaourts nous-mêmes, on achète les yaourts tout faits, et donc il y a des industriels de l'agroalimentaire qui se sont installés dans on ne fait pas les pâtes nous-mêmes avec le blé qu'on est allé acheter à côté, donc, etc. Donc en fait, toutes ces entreprises qui sont apparues sont la conséquence du fait que les gens n'habitent plus, là où a lieu la production agricole et ne transforment plus, pour l'essentiel, la production agricole eux-mêmes. Je vais revenir à l'exemple de la, du budget des ménages. Les gens achètent moins cher de légumes que de cigarettes aussi, hein, faut le savoir. Et ils achètent moins cher de nourriture que d'abonnements numériques, de télévision, d'ordinateurs, de smartphones et autre chose de cette nature. Donc, ces activités économiques sont apparues, j'ai envie de dire, conjointement avec la façon dont les gens se sont mis à vivre, là où ils habitent, etc. Et demain matin, on ne pourrait pas rêver, même peut-être que moi j'en rêve, mais ça n'a pas tellement de valeur pratique, on ne peut pas rêver d'un monde dans lequel on a supprimé les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire demain matin. Ça ne marche pas, parce que dans ce système-là, les gens ne mangent plus dans les villes. Voilà. Donc c'est alors, mais tout ça, on va s'y attaquer quand on regardera la partie transformation et distribution, c'est-à-dire la partie alimentation et les flux physiques qui vont derrière. Sur la partie diversification, avant de laisser mes collègues répondre. Alors adaptation, on s'en préoccupe parce que bien évidemment, l'agriculture qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'agriculture qu'on aura dans 50 ans, c'est pas possible. Et vous savez très bien que les schémas culturels dans n'importe quelle activité, ça met une à deux générations à changer. C'est ça le temps qu'il faut, hein, pour changer la façon dont les choses se passent de manière un peu significative dans un secteur. Il faut une à deux générations. Voilà, c'est partout pareil. Donc il faut se préoccuper maintenant de la façon dont on fait évoluer les paysages agricoles dans les 50 ans qui viennent, parce que là où il y a, par exemple, il y a des gens qui disent qu'au sud de la Loire, il n'y aura plus d'élevage dans 50 ans. Il n'y aura plus de foin, il y aura plus de... Enfin, voilà, donc et il faut évidemment s'en occuper tout de suite, puisque c'est une à deux générations. Hein, c'est, alors même si, encore une fois, on ne sait pas qui sera Premier ministre dans 3 mois. Et en ce qui concerne la diversification, c'est évidemment un facteur de résilience. On a clairement ça présent à l'esprit. Aujourd'hui, ce qui a permis la spécialisation des régions agricoles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les transports intermédiaires. Dans un monde dans lequel vous n'avez pas l'abondance de transports intermédiaires qu'on a aujourd'hui, ça ne flotte pas d'avoir tout le maïs dans le sud-ouest, tous les cochons en Bretagne et tous les consommateurs en Île-de-France. Ça ne marche pas, ce genre de choses. Et toutes les usines d'engrais, je ne sais pas où, sur des... Voilà. Donc, la façon dont il faut évidemment... Enfin, le point focal vers lequel il faut essayer d'aller, c'est évidemment, et ça aussi, c'est présent dans nos travaux, une agriculture qui se rediversifie dans certaines limites régionalement, parce que en tout cas, tant que le climat n'a pas changé, même s'il va changer, on fait du champagne en Champagne, on n'en fait pas beaucoup en Bretagne et on n'en fait pas beaucoup dans la région d'Aix. Voilà, donc il y a quand même évidemment la question du terroir qui est aussi une question qui se pose et qui est une question difficile, parce que le terroir renvoie précisément à des traditions et à des trucs dont on n'a pas envie que ça change, alors qu'il va falloir que ça change à cause des raisons qu'on a évoquées.
Merci. Donc, on poursuit avec Xavier Roseren.
Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Je tiens d'abord à saluer le travail remarquable qui est accompli dans ce rapport, qui met en lumière à la fois les défis et les opportunités pour une transformation ambitieuse de l'agriculture. Ce document illustre avec clarté la nécessité d'agir pour bâtir une agriculture bas carbone et prospère tout en plaçant les agriculteurs au cœur des solutions. Cependant, face aux bouleversements climatiques et aux contraintes écologiques, il est impératif de mettre cette transition en perspective avec l'urgence d'adaptation. Les phénomènes climatiques extrêmes, l'évolution des régimes de précipitation et les tensions croissantes sur les ressources, que ce soit sur l'eau ou l'énergie, exigent une anticipation forte et une mobilisation des acteurs. J'ai 3 questions. Il y a quelques jours, j'étais aux perspectives de Combloux, petit village de ma circonscription, où on a discuté de la forêt et de la prairie, l'agroforesterie, la gestion des forêts, ainsi que la préservation des prairies permanentes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la résilience de nos paysages agricoles face au choc climatique. Quel levier incitation économique peut-on envisager pour en corriger les pratiques agroécologiques, notamment à travers les paiements pour services environnementaux ou d'autres dispositifs innovants? La deuxième question, elle tourne autour de la gestion de l'eau, ressource cruciale, de plus en plus rare. Alors que les conflits d'usage se multiplient, comment articuler les stratégies de stockage, de partage et d'économie d'eau pour répondre aux besoins des agriculteurs, tout en respectant les équilibres environnementaux? Vous nous avez dit aussi sur la troisième partie qu'on avait des rendements qui... avait été très augmenté ces dernières années, entre autres grâce du coup aux énergies fossiles. On est aujourd'hui sur un plateau avec une stagnation de ces rendements. Est-ce que vous pouvez nous donner, de votre point de vue, les raisons principales de cette stagnation? Donc, en conclusion, si les perspectives 2050 est essentielle, elle ne doit pas occulter l'urgence des décisions à court terme. Il est crucial de fixer un cap clair et d'accompagner nos agriculteurs dans cette transformation pour qu'ils restent des piliers de notre souveraineté alimentaire et des acteurs majeurs de la transition écologique. Merci.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Alors, la première question sur les leviers permettant la transition vers des pratiques agroécologiques, vous avez parlé des paiements pour services environnementaux. Dans la grande consultation qu'on a menée, vous voyez ici les conditions qui sont pour 87% des agriculteurs des conditions économiques pour s'engager ou accélérer la transition. La première qui remonte en tête de liste, c'est la rémunération pour services environnementaux. Donc voilà, pour 53% des agriculteurs, c'est la condition agricole qui permettrait d'accélérer cette transition. Donc évidemment, c'est des choses qu'on va essayer d'affiner et avoir des retours plus territoriaux dans la suite du projet, notamment la phase de portage. Mais en tout cas, c'est la priorité qui remonte.
Sur la question du partage et des économies d'eau, on l'a dit, la clé de distribution, à notre sens, elle se situe à une échelle locale. Néanmoins, la question doit se poser de qu'est-ce qu'on arrose et quelles sont les cultures qu'on arrose. Et donc, à notre sens, il faut que les cultures soient adaptées aux conditions climatiques des territoires. Et donc, pour ça, il faut qu'elles soient rémunératrices. Si certaines cultures ne sont pas produites dans ces zones-là ou si les agriculteurs font des choix différents aujourd'hui, c'est bel et bien pour des questions d'abord et avant tout économiques. Et donc il y a donc cet enjeu d'adaptation des cultures au territoire d'un point de vue climatique, également des questions génétiques, peut-être des questions techniques pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses. On poursuit avec Constance de Pellichy.
Merci, Madame la Présidente. Merci pour cet excellent rapport et cet exposé très éclairant. Et je tiens à souligner cette démarche qui s'appuie notamment sur une consultation très large des agriculteurs. À une semaine des élections consulaires, ce débat sur l'heure de venir est le bienvenu. Et je me demandais si vous aviez également eu des contacts avec les syndicats agricoles dans le cadre de vos travaux de recherche. J'aimerais commencer par revenir sur la question économique que vous avez soulevée. Les agriculteurs sont donc prêts à faire évoluer leurs pratiques à condition qu'ils s'y retrouvent économiquement pour 87% d'entre eux, et c'est plus que normal. Ma première question porte donc sur comment améliorer une rémunération et avoir une rémunération plus vertueuse. Pour vous, l'agriculteur doit-il toujours vivre en partie d'aide publique? Comment restructurer les marchés afin de mieux rémunérer les agriculteurs? J'ai été particulièrement frappée par le chiffre de 1 à 1,5% que vous citiez tout à l'heure. À mes yeux, un défi structurel de l'agriculture française réside dans l'iniquité du rapport de force entre les agriculteurs et les centrales d'achat des enseignes de grande distribution françaises. Dans ce marché oligopolistique, dans lequel les agriculteurs sont les grands perdants, comment envisagez-vous de modifier ce rapport de force? À ce titre, je me pose également la question de la conscience du consommateur dans les produits qu'il choisit, et donc de son information. Celle-ci est-elle, à votre sens, suffisante, ou serait-il souhaitable d'envisager une autre information du consommateur sur le modèle, par exemple, du Nutri-Score, qui pourrait intégrer à la fois la juste rémunération de l'agriculteur, mais aussi le bilan carbone du produit alimentaire. Vous mentionnez la nécessité d'augmenter notre production de légumineuses et de limiter notre consommation de viande. Comment évaluez-vous la possibilité de modification des habitudes alimentaires des Français? Vous parlez de faire évoluer les pratiques agricoles, que l'agriculture dans 50 ans n'aura, dites-vous, rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Pourtant, on a finalement peu parlé de résilience ce matin au changement climatique. Nous avons connu une année catastrophique en termes de récolte. Comment accompagner ce besoin de résilience alors que nous sommes très attachés à nos terroirs? Et doit-on envisager de revoir notamment nos AOP et IGP qui apportent pourtant une forte valeur ajoutée à notre agriculture? Enfin, la dissolution suivie de la motion de censure du gouvernement n'ont pas permis l'aboutissement du projet de loi d'orientation agricole pourtant très attendu par la profession. Selon vous, quelles seraient les mesures à sauver au sein de ce projet de loi? Je vous remercie.
Merci, je vous donne la parole pour répondre.
Beaucoup de questions. Alors, pour en revenir, y a la question sur la distribution, je renvoie à ce que j'ai dit avant. En fait, on va s'attaquer à la question à partir de dans quelques mois. Donc, réponse dans un an et quelques, même si je sais que ce n'est pas nécessairement votre calendrier. Et que, sans vouloir être méchant, vous ne savez peut-être même pas si vous serez toujours dans cette salle, enfin, ou ailleurs. Je dis vous ne le savez pas, personne ne le sait. Ça fait partie de l'équation du problème, mais ce n'est pas juste une plaisanterie. D'une manière générale, dans tous les sujets de long terme, c'est quand même très très compliqué d'arriver à de se projeter quand il y a un aléa de court terme aussi fort. Je vous apprends rien et c'est pas du tout vous insulter que vous dire ça, c'est juste un fait, hein, c'est la situation dans laquelle on est, point. Sur la question de l'affichage environnemental, je vais répondre sur ce point et puis après je laisserai mes collègues répondre sur le reste. Alors c'est typiquement le genre de choses qui sur le papier semble une très bonne idée parce qu'on se dit tiens, si le consommateur est informé, ça lui donnera un élément de décision. Et puis dans la vraie vie, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que ça marche pas ou que ça marche pas aussi bien ou etc. En particulier si on veut que l'affichage environnemental descende au niveau de la différenciation entre produits d'une même catégorie. D'accord ? Entre deux pommes qui ne sont pas cultivées de la même manière, entre deux yaourts qui ne contiennent pas les mêmes ingrédients et qui ne sont pas fabriqués de la même manière, etc. Ça fonctionne à partir du moment où tous les acteurs de la chaîne qui ont permis la création du produit tiennent eux-mêmes une comptabilité environnementale sur le critère qu'on cherche à mettre en avant. Alors je vais prendre le carbone pour illustrer. Si vous voulez avoir le contenu carbone d'un produit, donc je vais chez mon charcutier et je veux savoir quel est le contenu carbone d'une saucisse de Francfort, je vais au supermarché et je veux savoir quel est le contenu carbone de l'œuf que j'achète et pas celui de la marque d'à côté du reste, etc. Ça veut dire que les gens qui sont dans toute la chaîne de valeur qui ont été jusqu'à la mise à disposition du produit ont tenu une comptabilité carbone précise et analytique, puisque un transporteur, il transporte plein de trucs à la fois, donc il faut qu'il soit capable d'imputer les émissions du camion à tous les produits qui sont dans la caisse du camion. L'agriculteur qui a fait, si je prends ma voisine de gauche, à la fois des moutons et des vergers, ben, il faut que je sois capable d'imputer le tracteur qui a été utilisé pour les deux, à l'élevage et aux fruits, etc. Donc c'est ça qui est nécessaire chez tous les acteurs de la chaîne si on veut qu'à l'arrivée, vous ayez l'équivalent d'un Nutri-Score, enfin, ou un Carbon Score, qui serait véritablement différenciant d'un produit à l'autre. J'ai dit tout à l'heure qu'en fonction des conditions d'élevage, un même kilo de bœuf, enfin, un kilo de même, pas le même justement, mais un kilo de bœuf pouvait avoir des émissions de production qui varient d'un facteur 10. Donc vous voyez bien que si on veut refléter cette différenciation dans l'information rendue au consommateur, un de vos collègues a dit tout à l'heure, il ne faut pas de complexité administrative. Là, je peux vous dire que si vous voulez avoir ce genre de choses, malheureusement, il faudra introduire de la complexité puisqu'il faudra chez chaque acteur de la chaîne une comptabilité carbone précise. Alors, c'est possible techniquement, mais ça représente à l'évidence une charge de travail et une charge économique alors qui n'est pas monstrueuse. Mais comme c'est une innovation, les gens n'ont jamais envie d'y rentrer très... Voilà, l'innovation, on se dit toujours, bon, on a bien le temps d'attendre, demain il fera jour et on s'en occupera plus tard. Mais c'est... Voilà. Et par ailleurs, comme on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une économie mondialisée, pas nécessairement dans les productions, mais dans les maillons amont, eh bien, il faut également que le fabricant John Deere de tracteurs, il ait sa propre comptabilité carbone si on veut avoir la comptabilité carbone de la production d'un kilo de blé, etc. Vous voyez donc, et que Yara, qui fabrique les engrais, ait sa propre comptabilité carbone, etc. Donc, c'est quelque chose qui est une très bonne idée sur le papier parce qu'on se dit, tiens, le consommateur, ça pourrait lui rendre service d'avoir cette information. En fait, quand on regarde les difficultés pratiques de mise en œuvre, c'est pas si simple. Et il vaut mieux aujourd'hui procéder par des analyses un peu macroscopiques des règles de fonctionnement un peu macroscopiques au sein même des secteurs plutôt que d'essayer d'imaginer cet affichage qui, à mon avis, et c'est mon métier de faire ça tous les jours, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi avec un peu de détail, ça va être très très compliqué d'arriver à faire quelque chose qui ait une portée, qui soit à la fois juste et qui ait une portée pratique. Voilà, ça c'est à mon avis quelque chose qui est aujourd'hui difficile à envisager en toute rigueur.
Là où je souhaiterais compléter un petit peu le propos, c'est sur les différentes modalités de commercialisation des agriculteurs. En fait, c'est variable selon les productions, mais la grande majorité des productions agricoles, en tout cas en termes de tonnage, ne passe pas directement de l'agriculteur à la grande distribution, mais par toute une chaîne de valeur. Vous avez évoqué la partie industrie agroalimentaire. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, par exemple, pour les céréales, le prix est défini par les marchés mondiaux. Et donc, à l'heure actuelle, il y a très peu de dérogations à cette règle de définition par les marchés mondiaux. Ce qui pose la question, derrière, de comment on peut faire mieux en termes de qualité environnementale si on veut que la France suive les objectifs qu'elle s'est donnés, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, mais pas que, tout en s'alignant en termes de concurrence avec des produits qui n'ont pas les mêmes normes, et ça renvoie à ces questions de clauses miroirs, etc. Donc à défaut d'aide publique, en tout cas il y a des aides publiques et des subventions qui permettent de s'aligner sur les marchés mondiaux en n'ayant pas les mêmes normes, soit de l'autre côté il y a des mécanismes de protection vis-à-vis de cette concurrence internationale. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait un de ces curseurs qui soit mobilisé pour qu'on puisse atterrir sur quelque chose qui fonctionne. Et vous avez enfin voulu parler des questions climatiques. On a là quelques éléments cartographiques avec des aires de répartition des cultures. Le fait est que à horizon 2000, alors là c'est 2070, par exemple le pois chiche va pouvoir être cultivé sur toute la zone Nord-Loire, etc. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais aussi que l'aire de répartition de cultures ligneuses, en l'occurrence les citrons, donc qui demandent un temps d'implantation beaucoup plus important, va aussi évoluer relativement vite. Et donc il y a un vrai enjeu d'adaptation. Donc ça c'est pour le changement climatique entendu comme un changement de long terme. Mais une autre donnée de ce changement climatique pour l'agriculture, c'est l'augmentation des aléas climatiques exceptionnels. Et là, on peut s'appuyer sur les travaux du GIEC qui parlent des augmentations en fréquence et en intensité de ces événements climatiques extrêmes, où on passe des événements qui n'arrivaient qu'une fois tous les 100 ans dans les climats passés à des événements qui vont arriver une fois tous les 5 ans, voire tous les 3 ans, en fonction du rythme de changement climatique qu'on a. Et donc la tempête centennale des années 70... pourrait devenir quelque chose qui arrive tous les 5 ans. De même pour les canicules et les pics de chaleur et de sécheresse. Ces données-là sont très très bien documentées et parfaitement disponibles dans les rapports du GIEC.
Merci. On en vient au dernier orateur, Éric Michou.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour votre travail et tout ce que vous avez exprimé avec beaucoup de passion. Je vais intervenir plus particulièrement sur les volailles de la Bresse. Je suis député de la Bresse. Ce sont les plus belles volailles du monde. Je tiens à le dire, à le souligner à côté. Je tiens à remercier tous nos éleveurs de volailles et les agriculteurs qui, au fond, sont là pour nous nourrir. Vos chiffres sont rassurants. En fait, vous avez exprimé que les volailles, pas que de la Bresse d'ailleurs, représenteraient que 34% des émissions nocives. Et que donc, je peux aussi rassurer mes éleveurs en disant qu'ils ne sont pas des pollueurs ou des empoisonneurs, parce que souvent, à force d'avoir des jugements négatifs sur l'agriculture et sur nos éleveurs, il y a une baisse des vocations qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont envie de s'investir dans l'agriculture. Vos préconisations sembleraient se retourner sur à la fois une baisse des effectifs de production des volailles, et d'autre part, avec une risque importante d'augmentation des importations, avec parfois des problèmes de produits frelatés, poulets aux hormones, aux bioxydes de quelque chose, qui peuvent venir d'Ukraine ou d'ailleurs, et qui généralement peuvent empoisonner même notre population. Nos éleveurs sont pris dans une triple tenaille, on pourrait dire une tenaille à trois branches, c'est une innovation, les tenailles à trois branches, la décarbonation et le verdissement, une contrainte prix marché export, et enfin quelque chose dont j'aurai le plaisir d'intervenir cet après-midi en commission, enfin, sur les questions sur l'agriculture, s'agissant des contraintes sanitaires et du principe de précaution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour devenir agriculteur, il faut vraiment avoir envie. Ce résultat, qu'est-ce qu'il donne sur le terrain en Bresse? Je vais vous le dire, des chiffres tout simples. En 2000, il se produisait 1 300 000 volailles. Aujourd'hui, en 2024, il s'en produit plus que 800 000, alors qu'en réalité, la demande est importante et les Français, d'une manière générale, notamment à Noël, souhaitent les volailles de la Bresse. Et nos éleveurs ont réduit de il y a moitié moins d'éleveurs maintenant qu'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on ne trouve plus d'éleveurs. Donc c'est sûr que quand on aura produit zéro volaille, il n'y aura plus de problème de pollution. Alors, j'ai relevé tout à l'heure la remarque de ma collègue Madame de Pellichy, et je tiens à lui dire qu'elle a une très très bonne remarque sur la notion, en tout cas, de label ou quelque chose qui ressemblerait à un label. Et Monsieur le Président, permettez-moi d'être en désaccord total avec ce que vous avez répondu à cette dame-là, parce qu'en réalité, il existe un cabinet dont je vous donnerai les coordonnées, qui est en train d'éditer un label qui introduit dans la qualification de nos produits l'ensemble de la filière complète de la production de l'animal, depuis le carbone, depuis la construction, depuis les terres, depuis la construction des tracteurs, jusque dans l'assiette du client. Donc, de la terre à l'assiette, il existe effectivement un label.
Merci, cher collègue. Il serait
important quand même de le retrouver. Je vais vous le donner, les coordonnées de ce laboratoire.
Merci beaucoup.
Merci, Madame la Présidente, de m'avoir accordé 21 secondes de plus. Merci.
Merci. Je vous laisse répondre
et
à cette
année.
Question.
Bonne année.
Une dégustation, alors. Ouais,
si on arrive à le protéger.
Ouais. Pour répondre à la question sur les volailles de Bresse, on n'est pas des fins connaisseurs du cahier des charges des volailles de Bresse. Néanmoins, l'approche qu'on a eue, c'est une approche assez différente entre les enjeux pour les ruminants. Les ruminants, on sait qu'ils émettent du méthane. Pour les monogastriques dont les volailles font partie, le sujet, c'est plutôt le contenu énergétique et donc la dépendance à ce qu'on appelle des émissions importées. Les volailles, c'est le secteur qui consomme le plus de soja aujourd'hui en France. C'est à peu près 43% des tonnages, si mes infos sont exactes. Et donc, c'est vraiment au travers de ce prisme énergétique et de dépendance aux émissions importées qu'on a voulu traiter le sujet de la transition pour ce secteur des monogastriques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur le risque d'augmentation des importations, on en est tout à fait conscient. Encore une fois, c'est un sujet qu'on va traiter dans la suite du projet qui ira jusqu'au périmètre de l'alimentation. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a un risque de report sur des importations qui n'est pas forcément souhaitable. Et le troisième point, sur la diminution du nombre d'éleveurs et la diminution du nombre de volailles de Bresse. Donc c'est un constat qu'on fait dans la plupart des secteurs agricoles. Il y a très peu de secteurs agricoles qui sont aujourd'hui en croissance. Ce qu'on dit, c'est pas qu'on souhaite que le nombre d'éleveurs diminue. C'est peut-être qu'on souhaite que ces éleveurs soient rémunérés autrement et notamment... en particulier s'ils ont moins de bêtes à élever, ce sera d'autant plus crucial. Donc l'angle qu'on a pris, c'est pas à tout prix vouloir diminuer le nombre d'éleveurs, au contraire, mais c'est augmenter leur rémunération pour faire en sorte que le rythme de diminution aujourd'hui des éleveurs se ralentisse.
Juste un petit complément sur la question des labels et de la comptabilité environnementale. Je maintiens quand même ce que j'ai dit. au sens où, on connaît très bien ça à Carbone 4, puisque c'est notre métier, on peut très bien faire des analyses one shot, c'est-à-dire une fois, qui soient macroscopiques sur un produit donné. On procède avec des approximations raisonnables, etc. Donc on est capable de donner des ordres de grandeur. Moi, ce que je dis, c'est que généraliser ça de façon systématique aux quelques milliers ou dizaines de milliers de références que vous avez dans la distribution alimentaire, ça demande la généralisation d'une comptabilité carbone chez tous les acteurs de l'économie et que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas et je ne le vois pas exister à un horizon de temps raisonnable. C'est juste ça que j'ai dit. Voilà. Après, faire des comparaisons en ordre de grandeur, bien sûr qu'on peut les faire.
Merci. On va passer aux questions de une minute. On en a une quinzaine. Je vais les prendre toutes à la suite. On démarre avec Daniel Brulbois pour une minute.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre rapport qui est tout à fait éclairant et intéressant. Moi, je voudrais revenir sur le problème de notre agriculture et de nos agriculteurs, c'est le revenu des agriculteurs. Donc, vous dites qu'il faut une meilleure répartition des prix, mais vous ne donnez pas beaucoup de solutions. Comment faire pour que les produits agricoles soient reconnus à leur juste valeur, pour que, effectivement, comme l'a dit mon collègue de Saône-et-Loire, moi, chez moi aussi, dans ma circonscription, il y a des producteurs de volailles de Bresse et les jeunes ne s'installent plus. Les jeunes éleveurs aussi, maintenant, on a beaucoup de mal dans la transmission des exploitations agricoles. Et donc, il faut absolument travailler sur le revenu des agriculteurs. C'est ce qu'on a fait avec les lois Egalim. Nous ne sommes pas allés assez loin. Et il y a dans le Jura un modèle de contractualisation qui rémunère les agriculteurs. C'est le modèle des coopératives, le système coopératif du comté, qui est rémunérateur pour les agriculteurs. Donc, je pense qu'il faudrait aussi travailler là-dessus. Enfin, on parle beaucoup de l'empreinte carbone de ceux qui nous nourrissent, mais il y a aussi une pollution carbone qui est la pollution numérique avec une empreinte écologique importante. Et de celle-là, on n'en parle jamais. Et comme je sais que vous êtes particulièrement intéressée,
j'aimerais avoir votre... Je donne la parole à Sébastien Humbert pour une minute. Merci de respecter ce temps.
Oui, Monsieur Jancovici, à la lecture de votre rapport, plusieurs éléments m'ont interpellé. Il est notamment pris comme hypothèse structurante de vos travaux une forte croissance des surfaces en légumineuses et en particulier en soja, avec une volonté affirmée de réduire la part de l'élevage. Or, aller vers moins d'élevage est une aberration dont les principes sont directement issus de textes européens comme le Green Deal, imposé sans consultation des peuples. N'est-il pas plus polluant d'importer de la viande du monde entier, de surcroît chlorée et aux hormones, que de laisser l'éleveur français faire son travail et produire une viande de qualité? Je pense bien entendu ici au traité de libre-échange Mercosur qui signerait l'arrêt de mort de l'agriculture française. Il serait plus intelligent de travailler sur les circuits courts et d'encourager la production-consommation locale par la commande publique dans nos cantines scolaires, plutôt que de réduire arbitrairement de 25% l'élevage bovin, comme vous le préconisez, en validant les dogmes des écolos et végétariens radicaux. Je vous remercie.
Merci. La parole est à David Magnier.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur Jancovici, votre rapport propose de réduire les cheptels bovins pour diminuer les émissions de méthane, tout en mettant en avant des pratiques agroécologiques comme la réduction des surfaces cultivées dédiées aux cultures fourragères. Cependant, l'élevage extensif pratiqué dans de nombreuses régions françaises joue un rôle clé dans la prévention des prairies permanentes, qui sont aussi des puits de carbone importants et des refuges de biodiversité. En ciblant l'élevage, ne risque-t-on pas de fragiliser un modèle agricole essentiel pour l'économie et l'écologie des territoires ruraux, tout en favorisant des importations de viande issues d'élevages intensifs étrangers, souvent situés dans des pays aux normes environnementales et sanitaires bien inférieures aux nôtres et qui contredisent directement notre propre objectif climatique? Ne sommes-nous pas en train de punir les éleveurs français parmi les plus vertueux d'Europe pour des résultats globaux largement hypothétiques? L'élevage constitue une part essentielle de l'identité française, tant sur le plan culturel que gastronomique, avec des produits emblématiques comme le bœuf de Charolles ou l'agneau du Pré-Salé. En menant cette transition, ne risque-t-on pas d'effacer une partie de ce patrimoine unique? Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole à Julien Guibert.
Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Je vais muter un petit peu ma question parce qu'on a beaucoup parlé de l'élevage et du soja. Et tout simplement, sur la question de l'élevage, il y a une question cruciale concernant le soja notamment. C'est l'apport d'alimentation en complément à l'herbe et au fourrage. C'est les apports de sources de protéines et d'acides aminés pour l'alimentation du bétail. Aujourd'hui, le tourteau de soja a un taux autour de 47%, alors qu'aujourd'hui, en France, nos productions de légumineuses permettant l'apport sont principalement le pois, la févrole, le lupin, et on atteint difficilement les 30%. Donc aujourd'hui, cela m'interroge, et donc c'est aussi pour ça que je vous interroge en la matière, si la question cruciale n'est pas tout simplement le manque de recherche agronomique dans notre pays, notamment avec l'INRA, pour pouvoir développer une véritable filière, pour pouvoir proposer des produits de substitution aux produits d'importation sud-américains, puisque le tourteau de soja, est principalement produit en Amérique du Sud et souvent avec des OGM. Donc ça permettrait aussi de remplir un cahier des charges de production nationale et notamment d'avancer vers la polyculture élevage à 100%. Merci.
Merci. Je donne la parole à Julie Lechanteux.
Merci, Madame la Présidente. Votre rapport veut encourager les pratiques agroécologiques et vertueuses par l'introduction d'un nouveau label, bas carbone. Cependant, le rapport admet en parallèle qu'il est difficile de mesurer avec exactitude les émissions du secteur agricole. En conséquence, ce nouveau label sera donc inefficace et facilement détourné à des fins marketing, à la manière du label commerce équitable. Ne vaut-il pas mieux, comme le propose le programme de Marine Le Pen, faire confiance aux consommateurs en imposant des étiquettes indiquant l'origine géographique de chaque produit? Une large majorité de Français veut savoir d'où proviennent les aliments qu'ils consomment. Il s'agirait ainsi d'un régime d'incitation plus accessible et direct, invitant le consommateur à librement choisir entre les produits français reconnus pour leur qualité et des produits importés de l'étranger, très souvent soumis à des normes agricoles moins scrupuleuses. Nous prenons la vertu des circuits courts. Je vous remercie.
Emmanuel Bléry n'est pas là. Béranger Cernon.
Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs, chers collègues. Votre rapport met en lumière une réalité que nous connaissons et qui est particulièrement alarmante. Les revenus agricoles sont souvent insuffisants et irréguliers, limitant la capacité de transformation de notre agriculture. Il est également précisé que cela conduit à l'amplification des inégalités entre les agriculteurs, à la baisse du nombre d'exploitations et des emplois agricoles. Vous proposez d'assumer une hausse des coûts de production et de garantir des prix rémunérateurs tout en agissant sur la demande pour éviter un report vers des importations moins-disantes. Quelles mesures concrètes préconisez-vous pour agir sur la demande? Une hausse du SMIC ou d'autres mécanismes de soutien au pouvoir d'achat pourraient-ils y contribuer? Quelle est votre analyse des marges pratiquées par les distributeurs et comment pourraient-elles être régulées pour garantir des solutions plus justes aux agriculteurs tout en limitant l'inflation pour les consommateurs? Notre groupe défend depuis longtemps des prix planchers pour les matières premières agricoles. Voyez-vous cet outil comme un levier pour sécuriser les revenus agricoles tout en favorisant une transition vers une agriculture bas carbone? Et enfin, quelles seraient pour vous les solutions pour valoriser auprès de la population une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement? Je vous remercie.
Merci. David Topiak n'est pas là. Anne-Cécile Violent.
Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Merci pour la qualité de vos travaux, inspirantes, sans aucun doute. Monsieur Jancovici, juste une petite clé de lecture sur nos réactions exacerbées lorsque vous faites allusion à notre sursis. Il y va de la stabilité de notre pays quand même derrière. Donc c'est pour ça qu'on ne goûte pas tellement au comique de répétition. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et j'en profite pour introduire la notion de santé, et notamment de santé environnement, et plus particulièrement de une seule santé. En termes de communication et d'acceptabilité de consensus social, vous en parlez, notamment sur les futurs travaux d'alimentation. Un exemple, l'OMS préconise des recommandations de consommation de viande. Ces recommandations, juste pour être en bonne santé, permettent d'être tout à fait alignées avec les questions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est juste une question de santé, sans même rentrer dans ces éléments-là. Mais d'une manière plus générale et plus systémique, comment les crises sanitaires mondiales telles que la Covid illustrent-elles l'interconnexion entre les systèmes écologiques, économiques et de santé? Et comment la transition énergétique peut-elle contribuer à prévenir ces crises futures? Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole à Denis Feignier.
Non.
Non, alors à Payot. Dans l'ordre. Ah, pardon, sur ma liste. C'était l'inverse.
Ah, pardon.
Pas de souci. Alors, à Payot okay. Dufaux.
Madame, messieurs, lors de la loi accélération des énergies renouvelables, le groupe socialiste et apparenté a beaucoup œuvré autour de quelques principes clés tels que la planification, la régulation, le partage de la valeur et une formule, les énergies renouvelables, oui. Les marchands de soleil, non. Or, nous observons aujourd'hui que la surface maximale couverte par les panneaux photovoltaïques peut atteindre jusqu'à 40% du terrain agricole, aiguisant ainsi l'appétit des énergéticiens. D'après les calculs de Christian Dupraz, expert reconnu pour ses activités de recherche, le potentiel est énorme, à savoir 300 000 hectares d'agrivoltaïsme, soit 1% de la surface agricole utile française, suffirait à produire autant que tout le parc de centrales nucléaires. Or, il nous semble primordial de préserver les terres agricoles. De quelle manière le Shift Project se positionne-t-il sur cette question de la régulation des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles? Merci.
Merci. La parole est à Denis Feignier.
C'est bon? Oui, j'avais une question, mais vous aviez partiellement répondu. C'était sur les modes de régulation et de contrôle des produits carnés sur notre territoire. Mais enfin, j'aimerais que vous reprécisiez votre positionnement. Et puis, moi, je suis élu des Hautes-Pyrénées avec une forte tradition de pastoralisme. Et j'aimerais vous entendre sur ce mode d'élevage basé sur le pâturage des animaux et la valorisation des ressources naturelles. Quel regard portez-vous sur ce mode de régulation? Merci.
Merci. Je donne la parole à Justine Gruet.
Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour ce rapport. Chaque territoire a sa particularité en matière agricole et c'est bien la vraie chance de la France. Dans le Jura, je pense notamment à la gestion de nos forêts qui doit être pensée sur une vision à court, moyen et long terme. Mon territoire est doté de l'ensemble des forces vives pour aboutir à ces projets-là. Les vignerons subissent les aléas climatiques du gel, de la grêle et de la sécheresse de manière plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses ces dernières années. Les agriculteurs utilisent de manière raisonnée des produits permettant de garantir une production. Des filières permettent de valoriser chaque acteur. Je pense ici notamment à la filière comté, aux fruitières ou encore aux coopératives viticoles. L'agribashing actuel ne favorise pas la reprise des exploitations. On ne peut pas critiquer en permanence, être plus royaliste que le roi. Quand nous n'aurons plus d'agriculteurs, ce sera trop tard de s'interroger sur notre souveraineté alimentaire. Je souhaiterais faire le parallèle avec vous sur le numerus clausus dans le milieu médical. En effet, on a pensé que moins nous aurions d'offres, plus nous diminuerions la demande. Et je ne voudrais pas qu'en diminuant la production, on se dise qu'on mangera moins. Vous avez parlé de l'arrivée de l'utilisation des énergies fossiles dans les années 1960, nous sommes 5 milliards de plus à l'échelle mondiale qu'il y a 60 ans. 5 milliards de personnes en plus à nourrir. Nécessairement, les énergies fossiles sont pour quelque chose dans la production, mais en tous les cas, il faudra qu'on soit capable de nourrir tout le monde demain. Merci.
Merci. Je donne la parole à Jean-Pierre Vigier.
Merci Madame la Présidente. Madame et Messieurs, pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, vous mettez en avant l'urgence de réduire l'empreinte carbone du secteur agricole tout en renforçant sa résilience, notamment en adaptant les pratiques pour optimiser l'utilisation des ressources en eau. Aussi, j'ai deux questions. Quels leviers politiques sont immédiatement actionnables pour accélérer cette transition tout en garantissant la viabilité économique des exploitations? Et ça, c'est très important. Et deuxièmement, comment concilier la préservation des ressources hydriques et la défense des intérêts des agriculteurs, notamment leur accès à l'eau pour l'irrigation, face aux tensions croissantes dues au changement climatique? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête.
Merci Madame la Présidente, Monsieur Jancovici. Merci d'ailleurs pour votre livre « Un monde sans fin » qui m'a appris beaucoup de choses, même si vous banalisiez beaucoup les choses avec votre collègue Blin, mais c'était très intéressant. Je suis un habitant de la Loire, ma circonscription est dans le département de la Loire, traversé par le même fleuve, avec trois barrages sur ce fleuve, Naussac, Villeray et aussi Grandjean. Un canal qui s'appelle le canal du Forêt, qui a été pensé par nos ancêtres pour l'agriculture. Malgré cela, il nous manque évidemment, comme l'ensemble des territoires, un potentiel source d'eau, une potentielle source d'eau supplémentaire, puisqu'il faut évidemment que tous les acteurs puissent partager maintenant cette ressource si rare. Ma question est assez simple. Je sais que vous avez des positions sur les retenues collinaires, sur les barrages. Pensez-vous qu'en 2025, même si nous en avions l'utilité sur des territoires, nous pourrions construire un tel barrage comme nos ancêtres l'ont fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas des oppositions de façon très forte pour des doctrines un petit peu excessives? Donc pensez-vous qu'en 2025, on peut construire un barrage en France? Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole à Benoît Biteau.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Jancovici d'essayer de remettre, alors moi je suis laïque, la mairie au milieu du village, et de cesser d'opposer l'économie, l'espoir de souveraineté alimentaire et l'écologie. Ce qui menace la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, et je pense que vous êtes suffisamment ambassadeur de cette notion-là, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique, c'est ça l'enjeu. Et donc, ce n'est pas la réduction d'utilisation de tel ou tel pesticide ou la réduction de tel ou tel engrais de synthèse qui nous menace demain, c'est bien ce sujet-là. Et donc, l'agriculture est à la fois le problème, une partie du problème, mais probablement une réponse efficace. Sans pour autant, et c'est pour ça que je vous remercie, sans pour autant remettre en cause l'économie qui peut y avoir derrière. Et donc, rappeler des fondamentaux, comme nourrir des herbivores avec de l'herbe,
Ça fait du bien à entendre parce que ça fait longtemps que je plaide pour ça et ça fait la démonstration qu'on peut être écologiste, on peut manger de la viande et on peut aussi défendre une activité d'élevage basée sur les prairies qui continue de séquestrer du carbone et qui propose des revenus décents et dignes à des agriculteurs. C'est ça qu'on doit faire dans les politiques publiques de demain.
Merci. Je donne la parole à Daniel Carteron.
Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, je voulais vous remercier pour votre présence dans notre commission aujourd'hui. En Savoie, où je suis députée, l'élevage, en particulier celui des bovins laitiers, joue un rôle fondamental dans l'économie locale, notamment à travers des productions emblématiques comme le reblochon, qui sont indissociables des pratiques pastorales montagnardes. Dans ce contexte, la question de la réduction du nombre de bovins, et plus spécifiquement ceux des bovins laitiers, dont on a discuté ce matin, soulève un certain nombre d'interrogations. Ne faudrait-il pas alors étudier avec attention et ou anticiper les conséquences possibles sur des productions spécifiques comme le reblochon? Et je suis certaine qu'en termes de production de fromage, je ne suis pas la seule dans cette commission à me poser la question, qui dépendent de l'élevage, qui se caractérise par un lien très fort entre les bovins, la gestion des terres et le maintien des écosystèmes. Dans ce cadre, comment concilier à la fois les objectifs environnementaux et la préservation des savoir-faire locaux, qui sont aussi la richesse de notre agriculture française, comme cela a été rappelé ce matin par mes collègues, et la préservation, sans mettre en péril plus spécifiquement l'identité et la viabilité des exploitations agricoles de montagne? Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole à Julie Ozen.
Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je tiens à saluer la clarté de l'étude présentée et la grande consultation. Ces résultats font du bien à l'heure où tout le monde y va de son opinion sur ce que veulent les agriculteurs et les agricultrices. Vous démontrez ainsi que la quasi-totalité des agriculteurs sont prêts à accélérer ou engager leur transition vers des pratiques agroécologiques. Comment expliquez-vous que les politiques et mesures prises à l'échelle française et européenne, et en particulier depuis un an, aillent totalement à contre-courant de ces résultats en freinant la transition au lieu de l'accompagner ? Avez-vous pu présenter votre consultation à la ministre de l'Agriculture? Comment ces résultats sont-ils globalement accueillis par les décideurs politiques? Vous soulignez par ailleurs le besoin d'agir sur la demande pour assurer des débouchés aux productions françaises et durables. Avez-vous identifié des leviers d'action prioritaires? Merci.
Merci. Je donne la parole à Jean-Marie Fievé.
Merci Madame la Présidente. Merci à vous, Mesdames et Messieurs les Présidents, pour ici et parmi nous, et bonne année pour 2025. Alors, on n'a pas échangé aujourd'hui sur... On a échangé longtemps sur le bilan carbone et gaz à effet de serre. On n'a pas échangé du tout sur le bilan carbone individuel, le compte carbone individuel. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous, d'ailleurs, je crois savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important aussi que chaque citoyen qui en consomme environ 11 tonnes de CO2 par an puisse être informé que chaque produit qu'il achète, son bilan carbone est de combien, et pour pouvoir cumuler sur l'année complète son bilan complet. Donc c'est une question qui n'est pas vraiment liée avec l'agriculture, mais quand même sur l'ensemble des produits finis. Et donc je vous remercie si vous pouvez répondre à cette question.
Merci. Et pour finir, David Topiak est revenu, donc je lui donne la parole.
Merci Madame la Présidente. J'accueillais des citoyens de ma circo dans l'hémicycle. C'est pour ça que je me suis absenté quelques minutes. Je voulais parler du stockage de carbone, faire un petit point, et notamment sur... le fait que nous y ayons ou non, alors je vous pose la question, est-ce que nous avons assez de recul scientifique sur les capacités de stockage des sols en fonction des systèmes et des pratiques agricoles? Le deuxième point qui concerne le pendant en termes de rémunération, est-ce que les dispositifs actuels de rémunération carbone sont adaptés à l'agriculture et suffisamment incitatifs pour faire évoluer les pratiques?
Monsieur Bonnet, pas de...
Ah si, mais c'est pas Arnaud, c'est Nicolas. C'est juste ça que je voulais souligner.
Ah oui, d'accord. Mais allez-y, vous avez une dernière question.
Le chrono repart pas à zéro. Si, voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour toutes ces informations physiques que vous nous transmettez. C'est essentiel effectivement de repartir d'abord, comme vous l'avez bien dit, des constats physiques qui s'imposent à nous pour trouver ensuite les bonnes solutions économiques. J'aurais quelques questions d'un point de vue lien entre justement énergie et agriculture. Donc, vous prenez une part plus ou moins importante, en tout cas une part de méthanisation. Comment est-ce que vous gérez la concurrence entre justement cette production d'énergie, que ce soit d'un point de vue économique, puisqu'évidemment, il ne faudrait pas que la production d'énergie soit plus intéressante que produire l'alimentation, mais aussi d'un point de vue carbone, puisqu'évidemment, si on prend une part, si on capte une part importante, en tout cas de l'énergie produite par la biomasse, est-ce que ça ne va pas venir au détriment de la productivité des sols ? Un autre lien entre agriculture et énergie, la question de l'agrivoltaïsme. Est-ce que vous voyez des modèles qui sont équilibrés au niveau des deux, qui permettent un petit peu d'avoir production de renouvelables tout en ayant quand même une production conséquente, en tout cas de biomasse. Et pour finir, est-ce que j'ai entendu tout à l'heure qu'en gros tout ce qu'on faisait en France était bien et c'était donc bien mieux que ce qui se faisait à l'étranger? Est-ce que vous avez regardé ce qui se faisait à l'étranger? Est-ce qu'il y a de bons exemples de quels s'inspirer sur ce qui peut se faire à l'étranger? Merci.
Beaucoup de questions, ce qui montre l'intérêt des députés. Donc je vous laisse répondre à tout cela. Merci.
Alors, je vais répondre à celles pour lesquelles je pense que c'est plutôt à moi. Et puis après, la deuxième question qui a été posée sur les circuits courts. L'élevage, etc. Je rappelle encore une fois que nos propositions ralentissent le rythme actuel naturel de décapitalisation du cheptel bovin. Je rappelle qu'elles ralentissent ce rythme. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est moins 2,7% par an, la diminution des têtes dans le cheptel bovin, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sujet environnemental, parce qu'être éleveur, il faut se lever à 5 heures tous les matins, pas de week-end, pas de vacances, pas de machin, pas de ceci, pas de cela, que ça fait partie des professions agricoles qui sont les moins rémunérées en termes de valeur ajoutée par exploitation, etc. Donc c'est d'abord ça la raison, et c'est pas d'abord le fait qu'il y a des gens qui veulent manger moins de viande ou qui achètent moins de fromage, c'est d'abord cette raison-là, et j'insiste, notre rapport n'est pas un rapport anti-élevage, ce n'est pas un rapport anti-viande, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin, c'est un rapport pro-climat, ça oui, on l'assume, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin en France est moins élevé que le rythme qu'on enregistre actuellement. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et les circuits courts, évidemment qu'on est favorable, on cherche à diversifier les productions géographiques dans la limite de d'autres réponses qu'on va faire sur les AOC, les spécialisations régionales, le fait qu'on fait plutôt du vin ici et le fait qu'on fait plutôt de l'élevage en Auvergne et qu'on fait pas de champagne en Auvergne, etc. Donc enfin voilà, dans la limite de la spécialisation régionale des productions, je crois plutôt des fruits dans le sud-ouest, enfin bon bref, on est tout à fait favorable à la diversification des productions pour justement optimiser les circuits logistiques à l'aval. Sur la protection aux frontières, je vais être très bref, on a déjà répondu, donc là je pense que c'est pas la peine d'y revenir. Sur l'étiquette concernant l'origine géographique, alors à nouveau, bonne idée sur le papier, sauf qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on voit que ça marche moyen. Si je prends la mode par exemple, vous avez sur tous les produits made in, c'est made in ailleurs l'essentiel du temps, ça n'a pas empêché l'industrie textile française de disparaître. Voilà. Donc est-ce qu'une étiquette c'est suffisant pour garantir la protection aux frontières? Malheureusement non. Est-ce que c'est une mauvaise idée de le faire? Non, c'est toujours une bonne idée de le faire, mais est-ce que c'est ça qui va permettre d'avoir un résultat unique? Malheureusement, la réalité c'est que c'est... Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut favoriser des frontières ouvertes, mais cette mesure pratique là, en fait quand on regarde dans d'autres secteurs, malheureusement c'est pas suffisant pour que le consommateur spontanément se dise je vais être sympa avec le producteur national même si c'est plus cher. C'est pas comme ça qu'il résonne, on peut considérer que c'est malheureux, mais c'est comme ça. En ce qui concerne l'agriculture biologique, etc., on y a déjà répondu, il me semble. Voilà. La question santé n'était pas directement au centre de la question de la production agricole, sauf sur un point, c'est qu'on s'est attaché à ne pas, vous savez, c'est le principe anglais « do not harm », c'est-à-dire quand vous proposez une mesure qui vise à être favorable sur une pression environnementale, vous restez un tout petit peu vigilant sur le fait que ça n'en augmente pas une autre ou que ça n'augmente pas un autre inconvénient. Toutes les mesures qu'on propose sur l'évolution de l'agriculture, elles vont globalement dans le bon sens sur la biodiversité ou la santé, si elles ne vont jamais dans le mauvais, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que ou bien elles sont neutres, ou bien elles vont dans le bon sens. Par exemple, quand il y a une diminution une augmentation de l'agroforesterie, c'est globalement quelque chose qui va plutôt dans le bon sens sur l'usage des phytosanitaires. Quand il y a une augmentation de la mixité des cultures, c'est quelque chose qui va globalement dans le bon sens pour l'usage des produits phytosanitaires parce que ça augmente la résilience des cultures, etc. Voilà. Donc on n'a pas fait de la biodiversité une entrée spécifique et quantifiée dans notre travail, mais par contre, il n'y a pas de mesure dans ce qu'on propose qui irait dans le mauvais sens sur le côté phytosanitaire et biodiversité. Et sur la partie santé liée au mode d'alimentation, ça, on renvoie au travail alimentation qu'on va faire plus tard. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on aura dans un coin de la cervelle. Après, il y avait encore des questions. Alors, il n'y avait pas vraiment une question. Il y en a d'autres qui vont être traitées à droite. Il y a encore eu une question sur l'économie. Donc, je redis, on n'a pas d'entrée directement économique dans le travail qu'on a fait. C'est une de ses limites. Mais ça veut dire que ce qu'on fait, on le met sur la table pour justement commencer à discuter des mesures économiques. C'est à ça que ça sert. L'opposition au barrage, joker, j'en ai strictement aucune idée. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a un phénomène pas dans mon jardin qui s'accroît, mais je ne sais pas répondre directement à la question qui a été posée. Sur la question des élevages qu'il faut, sur lesquels, qu'il faut préserver, j'ai envie de dire, dans un monde dans lequel on diminue légèrement le cheptel, ben ça on a déjà répondu aussi. Et entre le reblochon et le comté, même combat, au sens où tout ce qui est AOC en général favorise des pratiques vertueuses d'élevage. En général, c'est des pratiques qui, enfin, c'est des cahiers des charges dans lesquels il y a le maximum d'élevage à l'herbe, etc. Et c'est dans l'élevage, j'ai envie de dire pas AOC, qu'on va trouver plutôt les pratiques sur lesquelles il faudrait mettre un peu la pédale douce. C'est en général comme ça que ça va se passer. Après, l'AOC est un très bon système d'augmentation de la valeur ajoutée récupérée par les agriculteurs. Hein. Donc, tout ce qui est label AOC, etc., c'est une bonne idée, sous réserve de ce qu'on a dit sur le fait que le climat va changer. Et que donc, l'AOC, ça installe une tradition de terroir, et que quand on sait que les terroirs vont se déplacer, bah, il faut essayer de, voilà, c'est d'équilibrer les contraires, et on a bien conscience que, du fait que c'est compliqué. Après, sur le compte carbone individuel, j'ai déjà répondu tout à l'heure, ça suppose que tous les acteurs de la chaîne aient une comptabilité. Je ne vais pas faire refaire la réponse, et malheureusement, c'est encore une fois une bonne idée sur le papier, mais pratiquement, c'est compliqué. Voilà à peu près toutes les questions sur lesquelles moi j'avais quelque chose à dire.
Alors, en complément sur le pastoralisme, au-delà du fait qu'en général ce sont les systèmes les plus vertueux, il y a aussi deux sujets qu'on a pris en compte pour essayer de faire en sorte que la diminution des cheptels ne soit pas forcément fléchée et ne le soit pas vers ces systèmes-là. C'est qu'en général, les surfaces qui sont valorisées sont des surfaces qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou des surfaces qui sont difficilement accessibles pour cultiver autre chose. Donc c'est aussi un sujet qui permet de faire des arbitrages qui soient les plus vertueux possibles en termes de biomasse. Et c'est également des systèmes qui, en général, permettent de préserver de l'emploi et de l'emploi agricole de manière... voilà, c'est des systèmes assez intensifs en emploi. Donc c'est aussi, au-delà des raisons environnementales, des sujets pour lesquels on a souhaité préserver ces systèmes-là au maximum. On parle là de tous les systèmes de montagne ou pastoraux. Sur le sujet des dispositifs de rémunération carbone, et on a parlé du label bas carbone en particulier, vous retrouverez une petite analyse dans le rapport. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau actuel de rémunération des crédits carbone, non, ce ne sont pas des dispositifs qui sont rémunérateurs de façon incitative. Néanmoins, ils ont d'autres contreparties intéressantes. Les agriculteurs mettent en place ces pratiques surtout pour d'autres questions que la question du stockage de carbone, notamment parce que ça leur permet de mieux lutter contre les questions d'érosion des sols, d'améliorer la fertilité de leur sol, etc. Donc voilà, c'est une contrepartie qui est intéressante mais qui n'est pas le moteur de transition des agriculteurs. Donc il y aura certainement d'autres actions envisagées au travers notamment de primes filières. Et sur la question des filières soja, on envisage deux pistes d'action. En effet, pour diminuer les importations de soja, il est possible de relocaliser une filière soja en France. Les études montrent qu'on pourrait multiplier par 4 voire 5 les surfaces de soja en France avec des nouveaux bassins de production liés au déplacement des aires de production du soja. Et il y a également un autre volet qui est en effet d'accentuer la recherche sur des alternatives au soja, donc pour améliorer le taux protéique.
Et je profite de cette insiste sur le soja pour rappeler que si la production n'est aujourd'hui pas massive en termes de protéines végétales, c'est d'abord et avant tout parce que pour les agriculteurs, ça ne représente pas une source de rémunération significative, voire ça représente une prise de risque économique sur les fermes. Et donc, hélas, on revient encore une fois sur cette question de l'administration des prix et de comment ces prix sont fixés. Je voulais réagir sur les questions énergétiques, hein, si je me permets de rassembler la question sur le photovoltaïque et la méthanisation. Pour la partie agrivoltaïsme, il y a un taux de couverture effectivement qui a été fixé à 40%. En fait, c'est difficile de dire si c'est un taux qui est trop important ou pas assez important. Ça dépend des pratiques agricoles qui sont faites en dessous. Et en plus, il y a des questions aussi autour des technologies de ces panneaux, avec des possibilités d'avoir des panneaux qui s'enlèvent, enfin qui pivotent et qui du coup permettent aux plantes en dessous d'accéder à la lumière quand c'est nécessaire. Et une fois que la quantité de lumière nécessaire au développement de la plante est atteinte, on peut imaginer ces panneaux revenir, etc. Donc on rentre dans des questions techniques de mise en œuvre. Néanmoins, on a bel et bien un impact à partir de mémoire, c'est les travaux de Christian Dupraz de l'INRAE, je crois à partir de 20 ou 30% de taux de couverture des sols, on a un impact sur la productivité en biomasse, et donc on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact sur l'activité agricole. Donc, il y a une question à creuser là-dessus. Oui, c'est dans le rapport. Et c'est 25%, merci. Par rapport à la méthanisation, le développement de la méthanisation, il pose de nombreuses questions, parce que de fait, effectivement, il y a des impacts alors, de concurrence sur les usages de la biomasse hein, par rapport au retour au sol, d'intensification des pratiques, etc., et d'attractivité des prix qui font que ça devient plus profitable de méthaniser par rapport aux productions agricoles traditionnelles. Ces questions, elles sont effectivement très importantes. Ce qu'on constate, c'est qu'en termes de méthanisation, je ne vais pas vous faire la bonne méthanisation et la mauvaise méthanisation comme on pourrait faire le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais néanmoins, il y a une question de dimensionnement en fait, de la taille des unités de méthanisation par rapport aux fermes sur lesquelles elles prennent place, aux fermes potentiellement au pluriel hein, quand c'est des projets collectifs, mais en tout cas, ce dimensionnement, il est structurant dans le sens où on observe dans certains cas une amélioration, un accompagnement de la transition agroécologique à travers l'installation de ces méthaniseurs, l'arrivée de ces méthaniseurs dans les fermes, quand ça a été pensé, intégré à l'échelle de l'écosystème productif et que donc on ne vise pas à maximiser la production de biométhane, mais bien à l'intégrer dans une maximisation du recyclage de l'azote et une production énergétique qui vient apporter de la résilience à l'exploitation. Donc avec de la production locale d'énergie pour potentiellement faire tourner des tracteurs au biogaz. C'est quelque chose qu'on a exploré aussi dans nos scénarios, hein, qui s'intègre dans cette idée d'avoir 100% de l'énergie décarbonée consommée sur les fermes. Donc, je le disais, ça peut s'insérer dans ce cadre-là. Et à l'inverse, si les unités de méthanisation sont trop grosses, pour le dire de façon directe, ben, on observe des effets délétères qui sont maximisés avec effectivement une concurrence sur le carbone qui ne revient plus au sol, qui du coup est déstocké des sols de par l'intensification des pratiques agricoles pour nourrir le méthaniseur et tout un tas d'effets négatifs que vous avez déjà évoqués dans vos questions. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés.
Très bien. Madame, Messieurs, je voulais vous remercier pour l'ampleur du travail. J'excuse Monsieur Jancovici qui a dû partir avant la fin de notre commission pour d'autres engagements. En tout cas, vous avez souligné le besoin de clarté des agriculteurs sur les objectifs stratégiques qui leur sont fixés et les politiques publiques pour les accompagner. Sans occulter l'ampleur des défis ni la difficulté des arbitrages, nous prendrons notre part. Et je retiens en particulier le besoin de repenser le paradigme économique et le besoin d'un engagement des territoires pour notre transition agricole. Merci beaucoup. Donc, prochaine réunion de notre commission mercredi 21 janvier à 14h45, réunion au titre de l'article 88 sur le projet de loi DADU, et mercredi 22 janvier à 9h30 pour l'audition de M. Hénard, dont la reconduction est proposée à la présidence du conseil d'administration de Voies navigables de France. Chers collègues, je vous remercie. Bon après-midi.